Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans mon bon vieux décor habituel, le décor original du Made in Québec podcast, c'est-à-dire mon bar dans mon sous-sol. Alors, très heureux. Je suis à l'aise ici. C'est vraiment comme mon environnement qui me rend le plus à l'aise pour tourner des entrevues. Mais également, ça me permet d'aller chercher des invités qui sont plus loin en termes de distance grâce à Zoom. Vive la technologie là-dessus. Et puis, c'est quasiment rendu un standard dans la pandémie, que voulez-vous? Alors oui, ça me fait plaisir de vous présenter cette haute semaine spéciale thématique, si on veut, dans le podcast. Il y a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui avaient apprécié ces semaines-là thématiques dans le passé. On avait déjà fait des semaines hockey, baseball, armada, radio, bref. On avait fait une semaine spéciale Bob Bissonnette l'été dernier. J'avais reçu pour l'occasion la conjointe de Bob, Marie-Pierre Simard, qu'on avait parlé du côté business de Bob et bien sûr du côté amoureux. Veux pas? Et puis, j'avais reçu Bruno Gervais pour parler de hockey, comme étant un ancien coéquipier de Bob, un joueur de la Ligue nationale de hockey, un ami personnel. Bref, ça me faisait plaisir de jaser de ça avec mes invités et puis de vous le partager à vous, cher public et fans de Bob Bissonnette qui aimez apprendre des anecdotes sur votre chanteur préféré. Alors, je voulais renouveler l'expérience, mais d'une façon différente. Alors, tant qu'à le refaire, je voulais faire un autre côté de la facette de la personnalité de Bob qu'on n'avait pas encore abordé, c'est-à-dire son côté maniaque de baseball, maniaque de balle. Vous connaissez, beaucoup de chansons de Bob portaient sur le baseball. Également, beaucoup de chansons à venir s'en venaient sur le baseball. On en a appris quelques-unes de ses idées à travers les deux prochains podcasts. Mais également, je voulais parler du côté musicien de Bob. Donc, les deux prochains épisodes vont concerner le baseball et la musique. Le premier invité sera bien sûr Michel Laplante pour parler des capitales de Québec, le grand amour de Bob. On connaît la grande passion pour le baseball de Bob, mais également sa grande passion pour les capitales. Alors, personne n'est mieux placé en fait que Michel Laplante pour nous parler des capitales et de Bob, étant un ami personnel depuis plus d'une quinzaine d'années à Bob, à force de travailler avec lui, ce sont devenus des amis. Et puis, dans le deuxième épisode, je ne vous dis pas tout de suite ça va être qui, mais c'est quelqu'un qui connaît très bien Bob au niveau musical. Et vous allez être très surpris de le voir également, j'en suis convaincu. Ça fait vraiment du bien, je vous le dis. Alors, aujourd'hui, ça va être avec Michel Laplante dans l'épisode numéro 42 du Made in Québec podcast. Et pour l'occasion, on va parler de tout ce qui est des capitales. Que Bob a débuté dans l'organisation en tant que représentant pour les capitales, par la suite représentant pour B45, jusqu'à devenir copropriétaire des capitales de Québec et chanteur également sur la terrasse, comme vous le savez bien sûr, les mardis ou les mercredis, je me souviens plus. Mais bref, tout ça pour dire que c'était vraiment la passion de Bob, les capitales. Et puis, Michel nous partage sa carrière à lui également, parce que j'ai appris à le découvrir à travers mes recherches et ce podcast-là, une très grande carrière de joueur, en fait, longue carrière quand même, qui l'a propulsé partout sur la planète pour jouer au baseball. Et vraiment, Michel, là, il a un parcours digne d'une biographie, digne d'un film d'Hollywood. C'est incroyable. Le gars ne jouait pas dans une ligue organisée avant l'âge de 19 ans au baseball. Et à l'âge de 19 ans, joue sa première vraie année, junior élite quand même. Il commence pas en bas de l'échelle. Le plus haut niveau de son âge, c'est ça. T'sais, lui, il commence là en partant. Et puis, match sans point ni coup sûr dans l'année qui suit. Il n'avait jamais joué avant là, dans une ligue organisée, juste pour le plaisir, je tiens à vous le dire. Et à l'âge de 21 ans, c'est-à-dire 2 ans plus tard, repêché dans le baseball majeur par les Pirates de Pittsburgh, 24e round. Incroyable. Donc, on parle de son parcours qui l'a mené dans les organisations des baseball mineurs, mais également pour les Expos de Montréal. Il a fait un court passage dans l'organisation des Expos. Ça, j'avoue, je ne le savais pas. Et puis, on va en parler de ça aussi dans le podcast. Par la suite, c'est exilé en Taïwan pour aller jouer au baseball là-bas, devenu une certaine vedette. Tout le monde voulait s'arracher, y toucher, avoir un autographe, une photo avec lui. Revenu par la suite au pays, finir en fait sa carrière de joueur avec les Capitales de Québec. Une super belle histoire, je vous la raconte très rapidement dans l'intro parce que je ne veux pas trop en dire, je vais vous laisser la découvrir dans le podcast. Alors je vous dis, c'est vraiment un parcours phénoménal que Michel Laplante a. Et par la suite, il y a un côté business aussi qu'on va parler, la création de B45, l'entreprise de bâtons de baseball. B45 a été fondée par Michel Laplante au début des années 2000 et j'ai reçu comme vous le savez dans le podcast, un représentant de B45, Kevin Young, que je salue, mais aussi Josué Pelé, qui est un ami personnel et le joueur avec les Capitals dans les dernières années. Donc, j'ai aussi reçu Marc Griffin. Beaucoup de personnes m'ont parlé de lui. Je me devais de le recevoir au podcast pour parler de sa carrière par lui-même. Mais un côté émotif aussi qu'on a parlé dans le podcast, c'est que le 4 septembre 2016, dans le fameux écrasement d'hélicoptère qui a coûté la vie à Bob Bissonnette et le pilote Frédéric Descosses, Michel Laplante faisait partie de l'hélicoptère en question. Il était à bord. C'est le seul survivant de cet écrasement d'hélicoptère-là qui a coûté la vie à ses deux amis. Donc, j'osais pas lui en parler. J'étais sincèrement pas à l'aise, mais il a abordé le sujet par lui-même. Je lui ai essayé d'en parler et puis, pour vrai, je me sentais très à l'aise avec Michel, comme beaucoup de gens se sentent lorsque les gens lui parlent. Sincèrement, c'est quelqu'un de très simple et très transparent. Il m'a donné carte blanche, il m'a pas mis de bâton dans les roues, rien. Puis je l'apprécie, je remercie Michel de sa sincérité, d'avoir été aussi généreux avec nous pendant le podcast et puis de nous avoir partagé sa vision de la vie, parce que veut pas, c'est un miraculé de la vie. Aujourd'hui, Michel est en vie. Personne ne le sait comment il a réussi à sortir de là, quasiment indemne, là, à peine beaucoup de cicatrices, là, beaucoup de points de suture, mais aucune fracture. Et c'est un écrasement qui était vraiment violent, veut pas. Là. Il a réussi à s'en sortir d'une très bonne façon malgré tout. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je vais vous laisser le découvrir dans le podcast aujourd'hui avec Michel Laplante. Et puis, en terminant, je veux remercier les gars de Medcom Productions. Un gros merci, les boys Anthony, Michael, pour votre soutien encore une fois. Les beaux visuels, les affiches, les posters, si on veut, de l'épisode qui suit, ben c'est eux autres qui sont les responsables de cette belle confection-là. Donc, un gros merci, les boys, de croire en moi, de m'aider. Et puis, la commandite du jour, c'est le site, le blog, si on veut, sportif Sports2Go, créé justement par Anthony, un des deux gars de Medcom, avec un autre de ses amis. Donc, si vous voulez en apprendre, lire des articles sur le sport, le Canadien de Montréal et d'autres, n'hésitez pas à les consulter. Sports2Go, qui est un très, très bon blog sportif. Alors, merci les boys de m'encourager. Je vous encourage en retour. Et puis, je vous encourage, cher public, à aller visionner l'épisode qui suit avec Michel Laplante, l'épisode numéro 42. Du Made in Québec podcast. Merci tout le monde. On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa petite rigognée avec ta barre, Michette. T'as déjà striqué dans tes Michette. Et avec tes lunettes qui font peur, la victoire est signée. T'es mauvais. Salut tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui, enfin, en direct de mon sous-sol, dans le bon vieux décor habituel, original du Made in Québec podcast. Et puis aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 42, déjà après un an. C'est officiellement le premier épisode suite au premier anniversaire du Made in Québec podcast. Et je voulais faire ça en grand, pas faire les choses à moitié. Je voulais recevoir un invité de grande renommée pour moi, quelqu'un qui a vraiment une histoire incroyable à partager. Et puis, en même temps, je voulais combiner ça avec quelque chose qui ressemblait, qu'on a déjà fait dans le passé, qui avait énormément eu de demandes par la suite, c'est-à-dire les bonnes vieilles semaines thématiques au podcast. Et puis, comme vous le savez, l'été dernier, j'avais déjà fait une semaine thématique Bob Bissonnette. Étant un grand fan de Bob, comme vous voyez mon sticker Bob Bissonnette sur mon bord en tout temps, vous ne voyez pas l'affiche qui recouvre tout mon bord aussi en avant. Je respectais énormément Bob qui faisait les choses à sa façon, tout comme j'essaye de le faire. Et puis, en son honneur, je lui avais fait une semaine thématique en recevant Marie-Pierre, sa conjointe, et puis Bruno Gervais, un grand ami à Bob. Et puis, je voulais répéter l'expérience, mais d'une autre façon, d'y aller plus vers le côté baseball que Bob adorait tellement. Tout le monde sait l'amour que Bob avait pour ses Capitales de Québec. Et puis, je me suis dit, ben, je pense à Capitale, le premier nom qui vient à l'esprit, c'est Michel Laplante. Et puis, je voulais absolument recevoir Michel au podcast. Alors, un gros, gros merci, Michel, d'avoir accepté mon invitation.
Ça fait plaisir, Antoine.
Et puis, je vous dis tout de suite, j'avais prévu un podcast qui était, tu sais, c'est cool, je voulais pas te prendre trop de temps à Michel, puis je voulais qu'on parle de son histoire, mais de Bob également. Mais là, écoutez, j'ai fait mes recherches, là, puis là, on parle de deux pages pleines de notes que je me suis trouvé, des questions qui m'ont venu en tête. Je me levais la nuit pour une autre question qui me popait. Je vous dis, c'est un invité tellement inspirant qui m'a inspiré au plus haut point.
Ou vieux. Ou c'est quand je suis
vieux? Pas assez vieux encore, Michel. T'es plus jeune que ma mère, dis-toi ça. Et puis, oui, dans le fond, j'ai découvert un parcours unique, phénoménal. Je vais vous faire un petit topo, si tu me le permets, Michel, de ta carrière le plus rapidement possible, parce qu'il y en a long à décrire, mais je vais quand même le faire assez rapidement. Ceux qui ne connaissent pas Michel de cette façon, moi, je l'ai découvert comme joueur de baseball. Je le connaissais un peu moins. Je le connaissais surtout comme gérant, homme d'affaires avec B45. Mais je le connaissais pas vraiment comme joueur de baseball, étant donné que sa carrière a pris fin pas mal dans le début des années 2000 et j'avais à peu près 8 ans à l'époque. Donc, c'était un peu pour ça que je le connaissais moins. Michel est né en Abitibi. Il a commencé à jouer au baseball sur le tard, et ça, je veux qu'on en parle. À l'âge de 19 ans, il a commencé à jouer dans une ligue de baseball junior élite pour les Bisons de Saint-Eustache, les Orioles d'Antique également, junior élite. Il a lancé un match à 100 points ni coup sûr en 91 pour les Orioles. Aucun lanceur comme moi, donc on va bien se comprendre dans le podcast. 1991, repêché par les Pirates de Pittsburgh en 24e ronde. 1994, évolué au niveau 2A pour les Mudcats de la Caroline. Également fait un petit court passage dans l'organisation des Padres de San Diego. Et par la suite, il évolue dans le baseball indépendant avec les Black Wolves de Madison. Et en 97, décide de s'expatrier en Taïwan. Ça, je veux comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là pour que tu fasses le saut aussi loin que ça. Et il a connu vraiment beaucoup de succès là-bas au point d'en être devenu une certaine vedette dans ce coin-là. C'est assez exceptionnel pour un petit Québécois. 1999, il a décidé de revenir au Québec, en fait, pour jouer pour une nouvelle organisation dénommée les Capitales de Québec. Donc, vous me voyez venir pour la suite. 1999, signé un contrat pour les Expos de Montréal, a joué rapidement dans l'organisation des Expos. Par la suite, a eu une grosse blessure qui a un peu mis fin à ses espoirs au niveau du baseball majeur. Est revenu en 2002 avec les Capitales de Québec. Et puis, 2005, devient gérant des Capitales et un peu joueur ici et là jusqu'en 2009. Également remporté le championnat 2006-2009. La belle époque aussi avec Éric Gagné, qu'on va parler plus loin dans le podcast avec les Capitales. Une histoire phénoménale. Et là, on va parler plus loin de son... Ça, c'est son parcours de joueur. Et par la suite, Michel est devenu entrepreneur, a créé l'entreprise B45, des bâtons de baseball, des équipements de baseball. Et par la suite, l'histoire du Dôme de Québec qu'il y a sur le stade de Canac présentement l'hiver. Ça aussi, on va en parler. Et puis, sa belle relation d'amitié avec Bob Bissonnette qu'on va parler durant le podcast. J'essaie de faire ça le plus court possible, Michel. Et puis, j'espère que j'ai bien résumé ta carrière.
Ça fait du stock.
Ça fait du stock à jaser, hein, en peu de temps. On va essayer de raccourcir ça le plus possible. Mais wow, quelle histoire! Premièrement, je veux qu'on apprenne à te connaître dès le début. Là, toi, t'es un Abitibien d'origine et puis tu joues au tennis, dans le fond. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu t'es mis à jouer au baseball sur le tard? Explique-nous ça.
Oui, en fait, je suis d'Abitibi. Particulièrement, là, en 0-6 ans, je viens de Joutel, qui est une ville qui était au nord de Matagami, une ville minière qui n'existe plus. Et je suis arrivé à Val-d'Or à l'âge de 6 ans. J'ai trois frères, on est quatre gars chez nous, tous avec 2 ans d'intervalle. On est des joueurs de hockey jeunes, là. On pratique le hockey un peu comme tout le monde. Puis mon baseball, même si je ne joue pas de façon organisée, dans du baseball organisé, il demeure que, écoute, j'ai hâte que le mois de mai arrive en Abitibi, puis qu'on puisse aller jouer au parc sur la rue Sabourin en haut, puis de jouer tout un paquet de chums avec Francis Héroux, avec Luc Belzile, puis avec toute cette gang-là où on se réunit. Puis là, j'ai 10 ans, 11 ans, 12 ans, puis on fait le terrain le mieux possible, puis on frappe, puis on s'imagine tout ça. Mais c'est du 3 contre 3, du 4 contre 4, des choses comme ça. Et je vis quand même une expérience à l'âge de 11-12 ans de baseball organisé, puis je ne trippe pas. Pour toutes sortes de raisons, je joue, je trouve ça correct, mais j'ai quand même pas joué longtemps au baseball organisé. Peut-être parce que j'étais habitué d'être le petit boss de Bécosse dans le quartier où j'allais au bâton à toutes les trois présences au lieu de toutes les neuf. Je ne sais pas si c'était pas quelque chose d'évident. Puis malheureusement, j'arrête de jouer au hockey à l'âge de 13-14 ans. J'aurais aimé ça jouer plus, mais c'était bon, on était quatre gars chez nous, puis c'était quelque chose qui n'était pas facile. Puis ça m'a fait aussi peine. J'aimais tellement le hockey puis tout ça. Mm-hmm. Et comme tu dis, dans mes étés, je joue au tennis. Et je me débrouille quand même assez bien au tennis. Je coach le tennis aussi, tout ça, mais on parle de jouer 4 mois par année, pas de tennis intérieur en Abitibi à ce moment-là. Et ce qui a été un gros, gros changement pour moi, puis je fais ça vite, Antoine, mais
non,
ce qui a été quand même un bon changement pour moi, c'est que en 1987, on recevait les Jeux du Québec en Abitibi à Val-d'Or. Et au niveau des infrastructures, que ce soit la piste d'athlétisme, les courts de tennis, les terrains de baseball, tout ça, à partir de 2005, il s'est construit des infrastructures. Et en 2007, l'année qui suit 2007, où je fais les Jeux du Québec en tennis, puis tout ça, l'année suivante, les infrastructures restent. Et il y a un paquet de chums durant cette année-là qui disent « Écoute, Mike, on va se partir une équipe de baseball, c'est une ligue de baseball cet été, on va être 3 équipes. T'embarques-tu avec nous autres? » Ben, je dis « Boy, j'enseigne le tennis. De temps en temps, quand je vais pouvoir aller jouer avec vous autres, je vais y aller, mais certains, j'aime le baseball, puis tout ça. » Et parce qu'il y avait les infrastructures, c'était possible de jouer au baseball. On a joué au baseball, j'ai joué au baseball cette année-là. Et c'était de façon quand même assez amicale, peut-être une vingtaine de matchs. Et la personne qui s'occupait de tout ça, Michel Landry à l'époque, qui est-il le gars là qui, dans une région, qui est l'arbitre, qui est le directeur de la ligue,
le maire de la ville.
Ouais, avec les labés puis tout ça, puis tout un paquet de chums, on joue au baseball. Et à la fin de l'année, il dit écoute, Michel, tu as un certain potentiel, tout ça, il y aurait une possibilité d'aller à un camp parce que l'Abitibi appartient un petit peu aux Basses-Laurentides. Donc, il y a un camp à Saint-Eustache le 15 septembre. Ça te tente-tu d'aller à ce camp-là? Ça vaudrait la peine. Et là, je suis à la croisée des chemins un peu dans ma vie. Puis c'est drôle, tu n'es pas à la croisée des chemins à 19 ans dans ta vie, à 18-19 ans.
Sauf beaucoup de questions.
Les gens me disaient « Ah, pourquoi tu as talent dans le sport? Pourquoi tu n'as pas continué? Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? » Puis je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. J'ai mon cours d'éducation choix de carrière en secondaire 4, secondaire 5. Moi, je ne sais pas si je vais être un pompier, un ambulancier, un ingénieur, n'importe quoi. Je ne sais pas vers où je m'en vais. Et j'ai vu comme un petit peu cette opportunité-là pour dire « Pourquoi pas? » Et je suis parti à un camp ouvert à Saint-Eustache autour de cette date-là, à la mi-septembre, avec ma blonde. Et là, les chums étaient corrects parce qu'ils m'ont trouvé un gang, ils m'ont trouvé des spikes, un uniforme de baseball, tout ça. Puis je me souviens encore d'arriver au camp dans roulotte à Saint-Eustache. Et là, c'était des joueurs juniors 2A, c'était des joueurs midget 3A qui faisaient ce camp-là pour tenter de faire l'équipe l'année suivante. Et là, je le sais à cette heure, mais tu sais, les gars rient de moi 30 ans plus tard parce que c'était des spikes de softball que j'avais, de soccer que j'avais. C'était des pantalons de softball. C'était un gros, gros gars qui ont gardé. Les gars ont gardé ça en souvenir. Puis dans le fichier qui disait « Quelle position tu joues? » Ben, je joue à l'arrêt court, je joue au deuxième but. Je suis capable de jouer dans le champ. Avec ma gang de chums, je jouais partout, tu sais. Puis c'était marqué « Pour quelle équipe tu jouais cette année? » Puis j'avais marqué « Dépanneur des pins ». Parce que mon équipe, c'était le nom « Dépanneur des pins » que je jouais, jouais là-bas. Tout ça. Puis c'est, quand est-ce que depuis quand tu joues? Ben, depuis cette année. Tu sais. Fait que ça avait fait rire, mais j'ai fait ce camp d'une journée-là et ça se passe très, très bien. Et à la fin du camp, ils me disent « Écoute, tu joues au baseball où? Qu'est-ce qui se passe? » Ben, j'ai dit « J'ai joué avec des chums cet été. » Puis là, on m'a dit que je peux venir à ce camp-là. Mais on dit, écoute, si tu déménageais à Saint-Eustache dans les prochains mois, puis on te montrait le baseball, est-ce que tu serais prêt à embarquer dans l'aventure? Ouais. Et j'ai fait mon 5 heures de route pour retourner en Abitibi avec ma conjointe que je suis encore avec aujourd'hui, avec Francine. Wow. Puis j'ai dit, écoute, je pense que c'est ce que je veux faire dans ma vie. Puis quand je suis revenu, je me souviens, on vient pour souper chez nous, puis j'ai annoncé à mes parents que ça me tentait de commencer à apprendre le baseball. Et que j'allais déménager possiblement en janvier ou en février à Saint-Eustache. Larry Bellil, à ce moment-là, m'avait trouvé un 1,5 et une job en même temps. Puis le mercredi, puis le samedi, Derek au coin était là, Derek dans l'équipe. Derek, d'ailleurs, c'est le premier qui m'a montré comment tenir la balle, puis tout ça. Wow. Et j'ai commencé à apprendre le baseball de façon plus approfondie, plus technique à partir de cette année-là. Fait que c'est comme ça que tout a démarré.
Hey, j'en ai des frissons quand tu m'en parles. Là, c'est fou. En tant que joueur de baseball depuis j'ai 4 ans, tu sais, moi, j'ai travaillé. Je peux pas dire j'ai un talent, peut-être pas un surdoué comme toi, parce que veux pas, faut que tu sois un certain surdoué pour être capable de te faire une place dans un niveau aussi élevé, aussi compétitif, sans jamais vraiment avoir des techniques ou même un uniforme, du stock, quoi que ce soit. Faut vraiment que tu aies un talent exceptionnel. Puis, tu sais, j'ai travaillé toute ma vie depuis j'ai 4 ans pour, tu sais, je suis lanceur moi aussi, puis tu sais, j'essaie de développer mes balles également, puis tu sais, le plus haut que j'ai atteint, c'est le junior 2A, puis j'avais jamais atteint le niveau plus élevé que ça jusqu'à, il y a un bout de ton histoire qui m'a fait penser un peu à la mienne, jusqu'à l'été dernier, quand que les Cardinaux de Saint-Jérôme, dans le fond, dans le senior Ligue Baseball Majeure du Québec, si on veut, m'ont offert un camp d'entraînement, dans le fond, sans me connaître, je ne sais pas pourquoi, en fait, les étoiles t'alignées comme ça, de lancer une manche pour eux au camp d'entraînement, puis contre les Bisons de Saint-Eustache. C'est pas, il y a comme un lien avec ça. Les Bisons Junior Elite ont joué comme un match préparatoire contre eux. Puis j'ai lancé une manche, j'ai fait 2 retraits sur des prises, puis aucun coup sûr, puis ça a été comme un des plus beaux moments de ma vie, juste de, tu sais, que tout le monde, un peu comme toi, j'arrive là, ma mitte, elle venait de fendre en plus, j'étais pas équipé pantoute, mon pouce, il tenait même plus, j'avais même pas la bonne couleur de pantalon, tu sais, j'avais pas l'air du tout équipé pour jouer avec ces gars-là, que les Louis-Philippe Pelletier qui revenaient du camp des Astros de Houston, puis là, tu sais, je les regardais, j'étais là, je suis pas du tout dans leur ligue, mais j'en ai passé 2 dans la mitte, puis tu sais, juste le feeling que t'as après ça, de dire, hey, il m'a regardé tout croche, puis après ça, tu viens de où, toi? T'es qui, toi? Là, tu dis, je te jouais Seniora, là, pour le fun avec mes chums, là, tu sais. Puis là, j'imagine que c'était un peu un sentiment, version plus gros que t'as vécu, là, mais aïe, aïe.
Ben, en fait, ça prend aussi un peu de chance, ça prend un déclic, ouais. Ça prend, tu sais, dans la situation dans laquelle j'étais, d'avoir un petit peu le courage de dire, pas le courage, ou de ne pas avoir d'autres options. Et de dire, ben je pars, puis je vais à l'aventure comme ça. Évidemment que si ma conjointe avait pas été d'accord, si les parents avaient dit c'est pas possible, je faut que je t'avoue qu'il y a des chums qui ont dit, on t'apprend pas à jouer au baseball à 19-20 ans, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas si tu comptes à croire, évidemment. Mais tu sais, après ça, il y a plein de facteurs, il y a plein de tournants qui arrivent, back-à-back-à-back, qui fait que tu glisses aussi, puis tu es chanceux, puis il y a des gens aussi dans la vie qui ont un talent, qui sont pas chanceux, ils ont pas pu le développer. Mais moi, il faut admettre que la séquence que je vais te dire là, dans les prochaines minutes, il faut que tu sois quand même assez chanceux.
Oui, effectivement.
J'arrive à la fin avril, début mai, et l'entraîneur, M. Beaulieu, il me dit, écoute, Michel, il y a une équipe à Sainte-Marthe 2A, tu vas probablement commencer là. Par contre, les 4-5 premiers matchs de l'année, viens avec les Bisons de Saint-Eustache, tu vas être autres, mais je te le dis tout de suite, tu joueras pas. Mais tu vas être sous l'alignement, mais tu joueras pas. Puis je veux que tu observes, puis tu poses des questions, tu fasses la pratique bâton d'avant-match, puis tout ça. Et comme des fêtes, le premier match, le deuxième match, le troisième match, je joue pas. Et le quatrième match, on mange une volée 8-9-0 en 5-6e manche. Il dit, Michel, t'embarques. Et je pense qu'à ma première at-bat, puis je trouvais que ça venait vite. Là. Tu sais, j'étais un joueur de champ, tout ça, mais je trouvais qu'au niveau du bâton, ça rentrait pas mal, tout ça. Mais je pense que je frappe un double, quelque chose comme ça, la deuxième apparition en circuit. Et suite à ça, il décide de me faire jouer le lendemain. Là, je joue encore tout ça, puis je me ramasse au milieu de l'année, que je suis dans les premiers frappeurs de la Ligue, finalement. Mais le style est tout croche. Là, il manque vraiment de finition, tout ça. Mais je suis un joueur de position. Et je termine mon année, je crois que c'est 2008-2009. Je termine mon année 2008-2009. Avec une bonne moyenne au bâton, genre 350, puis beaucoup de doubles, puis quelques circuits, puis ça. Et je suis très enthousiaste à venir jouer ma dernière année junior l'année suivante. Et là, ça ne tourne pas comme je veux. Moi et l'entraîneur, à ce moment-là, on ne s'entend pas tout à fait bien non plus. Puis le mood qu'il y a dans l'équipe cette année-là est moins le fun. Et j'arrive vers la fin de l'année. Là, c'est ma dernière année junior, ma deuxième et ma dernière année junior que je vais jouer. Et j'arrive vers la fin de l'année, il reste peut-être 5-6 matchs à jouer. Et ça va être la fin. Ça va être une aventure qui est très, très, très correcte. Puis moi, je vais arrêter de jouer au baseball. Puis je vais avoir eu 2 bonnes années juniors correctes, tout ça. Et je suis dans la chambre avec les boys, dans le vestiaire, à la fin d'un match. Et les gars parlent d'une lettre qu'ils ont eue des Braves d'Atlanta, parce qu'il y a un camp à La Salle des Braves d'Atlanta, où les Braves invitent à chaque année depuis 30 ans, les meilleurs joueurs au Québec, puis tout ça. Puis Puis je dis, c'est quoi la lettre que vous avez, tout ça, les bases? Ah, c'est une lettre pour aller au camp des braves, tout ça. Puis non, il dit, ah ouais, puis Michel, t'en as pas reçu. Je dis, non, pour ça, j'ai 20 ans, 20, 21 ans. Et le gars, il dit, tiens, prends donc ma lettre, moi, je vais pas demain.
Aïe, aïe, tu sais, quand tu dis les étoiles, là.
Je peux pas me rendre là, les boys, je conduis pas sur une autoroute, puis je sais même pas comment me rendre là. Toute l'équipe. Fait que les gars, ils disent, non, non, je vais aller te chercher.
Ben, fait que,
lendemain matin, 6h30, on doit partir. Le téléphone sonne. Puis le gars, il me dit, Michel, finalement, je ne peux pas aller te chercher. J'ai été appelé pour faire la job. Il faut que j'aille travailler, tout ça. Fait que j'arrive me recoucher. Ma blonde a dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je ne peux pas y aller. Viens pas me chercher. Ben, elle dit, vas-y, pareil. Tu as toujours voulu aller à un camp d'entraînement, voir ce que tu étais capable de faire. Ben, vas-y. Fait que là, tu sais, dans ce temps-là, tu ne pouvais pas mettre sur ton sel... Google Maps, puis t'en allais à telle place, là, tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Fait que, appelle sa mère, me donne les directions. Fait que j'arrive à. C'est une journée qui était magnifique, ciel bleu, puis toute la quête. J'arrive à Ville-la-Salle en retard, avec mon uniforme, toute la quête. Je sors de la voiture avec mon sac, puis là, je rentre par le marbre, et tous les joueurs avec les coachs sont tous en train de parler dans le champ centre. Les joueurs sont assis sur le gazon, puis les 5-6 dépisteurs entraîneurs sont en train de leur parler. Et moi, j'avance tranquillement. Et là, il arrête de parler, il se retourne vers moi, puis il me dit, « Kid, what are you doing here? » Fait que je parle pas anglais du tout. Fait que là, il y en a un qui dit, « Valdor! » Parce que mon surnom, c'était Valdor. Il dit, « Valdor, qu'est-ce que tu fais là? » Il demande, « Qu'est-ce que tu fais ici? » Ben, j'ai dit, « Play baseball. » Puis il dit, « Do you have a letter? » Fait que j'avais oublié ma lettre, je dis non. Fait que là, tout le monde me regarde, tout le monde est crampé, tout le monde rit. Fait qu'il me dit, listen, you're number 51. Fait que je m'en vais dans le tas. Sauf que je fais ce camp d'entraînement-là. Et juste te dire comment il arrive un déclic dans la vie des fois que tu ne sais jamais ce qui va arriver. Mais moi, je ne m'attends à rien de ce camp-là. Sauf qu'on te fait courir un 60 verges. Après ça, on te fait lancer. Après ça, on te fait jouer à des positions, tout ça. Puis ça dure à peu près 3-4 heures. Et quand je finis le camp d'entraînement, il garde trois personnes. Il garde Dominique Therrien, Yves Martineau, puis Michel Laplante, sur les 50. Et on le sait, Dominique Therrien finalement a signé avec les Braves d'Atlanta, Yves Martineau a signé avec les Braves d'Atlanta, et moi, il me regarde avec avec Bob Isabelle qui traduisait pour moi, puis il dit, écoute, il dit, t'arrives de où? Tu jouais où dans le passé? Fait que j'y raconte, j'ai commencé à jouer l'année passée, puis tout le kit. Et là, il me dit, si tu n'avais pas eu 21 ans, là, on te signait un contrat professionnel aujourd'hui. Il dit, t'as couru 6 secondes, 55 ou 6,60 sur un 60 verges, t'as lancé à 80. Il dit, mais bravo pour ce que tu as fait aujourd'hui de ça. Fait que là, je m'en retourne dans l'auto et là, je me dis, tabarouette, il me dit que j'étais bon. Fait que là, parce que tu penses que tu es bon, on commence les séries deux jours plus tard, les playoffs, puis on va se faire éliminer dès le premier tour, parce qu'on a fini, je pense, septième dans la saison pour finir l'équipe qui était en deuxième place dans le junior. Et quand que je te dis que les anecdotes dans la vie, tu sais jamais ce qui arrive, le lanceur partant du match se plante en scooter en s'en allant au match pour Rosemont. Et moi, qui avais lancé juste une fois dans l'année, je me souviens, Bernard Hinault me donne la balle et il dit, il n'y a pas le choix. Je veux dire, il faut qu'il trouve un lanceur, puis son lanceur qui est supposé lancer le deuxième match, il garde sa série. Fait qu'il dit, Michel, c'est toi qui vas lancer à soir. Et oubliez pas, là, je me suis fait dire que j'étais bon puis que j'avais du potentiel.
La confiance est au top, là.
Non, mais c'est incroyable. C'est juste un déclic. Fait que je lance le premier match. Je pense que je donne pas grand-chose. On gagne la partie de façon inattendue, puis on gagne la série contre Rosemont. Mm-hmm. Après ça, on affronte les Associés de Laval qui avaient un nombre record de 40 victoires, 4 défaites cette année-là. Ils avaient tout gagné. Fait qu'on gagne la série en 7. Puis je pense que j'avais lancé le match 1-3-5-7.
Ben voyons.
Et après ça, on affronte Saint-Hubert en finale. Je lance encore presque à toutes les 2-3 jours. Et j'étais tout le temps sur cette vague-là qu'on venait de me dire que tu avais potentiel, tu étais bon. Moi, c'était la fin de ma carrière. Fait quand même que mon bras lançait à toutes les 2 jours, 125 lancés, c'était pas grave. Et la saison se terminait comme ça. Donc, on joue contre Saint-Hubert, on gagne le championnat. Ensuite de ça, on joue contre Sainte-Foy en finale au Stade olympique. Et ça va être la dernière série ou les derniers matchs de baseball de ma vie.
Au Stade.
Et comme défaite, on remporte la petite série mondiale. Puis là, je gagne le joueur le plus utile. Puis je retourne chez moi en Abitibi. Ma carrière de baseball est terminée. Puis là, je vais commencer à faire autre chose dans la vie. Et finalement, le programme de l'ABC commence cette année-là. Mon chum m'appelle, puis il dit Albert Marié, il dit Albert, je comprends pas, Michel Laplante, il gagne le joueur le plus utile, puis pourtant, il n'est pas invité à l'ABC. Puis là, ils ont une discussion, puis il explique, écoute, le programme est pour les joueurs un peu plus jeunes, tout ça, mais il dit, écoute, fais le don venir, on est en fin de semaine au Stade Olympique, puis si Michel veut venir, fait que je redescends de balle d'or, je retourne au Stade Olympique, et là, je performe bien, fait qu'ils n'ont pas le choix. Et j'ai joint le programme de l'ABC en janvier 91. Et c'est là que tout a explosé, parce que pour la première fois de ma vie, ben, j'étais coaché, je m'entraînais baseball, je dormais baseball, je me nourrissais en fonction de m'améliorer comme athlète. Fait qu'en l'espace de 4 mois, avec Richard Raymond, avec Alex Agostino, avec les entraîneurs qui étaient là, ben, ça a fait ça comme ça. Donc, je devais m'arrêter là. Je me souviens, la première réunion avec Alex et Richard, il m'avait dit, c'est quoi tes objectifs? Ben, j'aimerais ça être repêché. Fait que là, il avait dit, ben Michel, tu ne seras pas repêché, t'as 21 ans, tu vas avoir 22 ans, ça, il faut que tu oublies ça. Ben, d'abord, j'aimerais ça faire l'équipe canadienne cette année. Ouais, l'équipe canadienne, Michel, c'est pas facile à faire. C'est quand même l'année des Jeux panaméricains et toute l'équipe. Mais peut-être qu'un jour, si tu travailles fort, tu vas pouvoir faire l'équipe et tout ça. Et comme défaite, 4 mois plus tard, je suis invité sur l'équipe nationale. Je suis pas supposé faire l'équipe nationale. Finalement, je fais l'équipe nationale. Et ensuite, de ça, on s'envole vers l'Europe. C'est de là que tout a éclaté. Et tout ça à partir d'un petit point de confiance où ce que quelqu'un, à la suite d'un camp des Braves, dit... Écoute, tu as un certain potentiel, on t'aurait donné un contrat, puis c'est tout ça qui a changé. Donc, c'est assez spécial comment tu peux avoir des fois un tournant qui peut virer très, très positif.
Hey, c'est fou quand on pense que la confiance est importante dans le baseball, que c'est comme Yogi Berra disait, je pense que c'était 80% mental, 20% physique. Là, c'est carrément ça. Un coup que tu es au top de ta confiance, tes performances augmentent. Puis c'est tellement important de savoir qu'il y en a un qui a cru en toi. Mais aussi, c'est tellement valorisant un peu aussi. Puis, je me dis à ce moment-là, est-ce qu'il y a un côté de toi, même dans tes rêves les plus fous, qui s'imaginait réellement être repêché dans le baseball majeur?
Non, parce que je fais mon année d'équipe nationale 91, où finalement, on perd à Cuba contre un match crève-cœur contre le Mexique, puis tout ça, puis on se classe pas pour les Jeux de Barcelone l'année suivante. Et là, je reviens jouer au baseball. J'ai joué un peu avec au baseball senior avec les Orioles d'Antic pour une courte séquence. Mais je vais jouer avec eux autres, tout ça. Puis, honnêtement, je suis en Ontario dans une ligue senior en juin 92. Et je me prépare pour ma deuxième année sur l'équipe nationale. Et à 7h15 du matin, il y a quelqu'un qui a cogné à la porte qui m'a réveillé dans le petit appartement que j'étais. Puis il m'a dit écoute, Michel, faut que tu t'habilles. Les Pirates de Pittsburgh t'ont repêché hier soir à 9h30. Et il faut que tu viennes discuter avec eux autres. Hey, fait que là,
incroyable.
Pirates de Pittsburgh, puis pourquoi? Steve Arleschuk, avec l'aide un peu d'Alex Agostino qui avait bien parlé pour moi et tout ça, m'avait repêché en 24e ronde. Et là, encore une fois, j'ai dit comme lanceur ou comme joueur de position? J'ai dit comme lanceur. Fait que, écoute, je me suis rendu à un bureau, je me suis trouvé un ami qui allait jouer un petit peu l'agent dans tout ça, signer un contrat professionnel, 10 000 piastres. Écoute, j'étais riche. J'avais jamais eu 500 piastres de côté dans ma vie.
Hey, c'est
j'avais 10 000 piastres, puis j'allais jouer professionnel. Et après ça, ben ça a été fulgurant. Des 50 joueurs repêchés cette année-là, j'ai été le deuxième joueur à atteindre le 2A. Et tu sais, après, je commence à lancer à l'âge de 21 ans. Et à l'âge de 23 ans, 2 ans plus tard, je suis au camp des majeurs avec les Pirates de Pittsburgh où j'ai Bobby Bonilla, j'ai Andy Van Slyke. Je joue avec ces joueurs-là. Puis à cette époque-là, les Pirates commencent à savoir mon histoire. Parce qu'ils disent, écoute, le gars ne jouait pas au baseball, il lançait pas au baseball il y a 2 ans. Et c'était une belle histoire. Ça semblait bien. Puis j'étais comme... J'ai monté très, très vite. La première année et demie, j'ai passé à travers le A faible, le A moyen, le A fort, le 2A. Même j'étais partant numéro 1 dans le 2A, le premier partant de l'année. Et finalement, j'ai comme pogné un mur, puis ça arrête un peu. Juste une seconde, je vais juste fermer la porte parce qu'il y a un peu de bruit. Ça a été une situation qui était, une situation assez spéciale. Et je me suis retrouvé en 94, à ce moment-là, dans Baseball America, classé sixième prospect de l'organisation. On me voyait dans les majeures en 95. Donc là, je n'étais plus un suspect, j'étais comme un prospect et tout ça. Et je suis tombé à ce moment-là dans la game d'agents, puis de choses comme ça. Puis là, imaginez que depuis 2-3 ans, ce que je vis, c'est de l'insouciance. C'est tellement trippant. C'est la naïveté totale dans le sport. C'est tout ce que je faisais depuis le début, c'était pas pour faire une carrière de baseball. Quand je suis parti de Val-d'Or, c'était pour dire, ah, ben ça va me permettre de connaître des gens à Montréal, puis de construire un autre réseau, puis tout ça. Puis quand j'ai fait l'équipe nationale, hey, je suis le seul Québécois, je vais apprendre l'anglais, je vais voyager. Pour la première fois, j'ai pris l'avion. Je suis allé en Europe. Puis après ça, hey, quand j'ai été repêché, ça va être le fun parce que je vais vivre un peu aux États-Unis. Puis ça va être bon pour mon expérience à moi. Donc, c'est jamais dans le but de dire, il faut que je fasse une carrière. Et là, pour la première fois, c'était plus ça. Là, c'était, non, là, tu vas être dans le baseball majeur. Je suis au camp d'entraînement. L'organisation me rencontre dans le camp d'entraînement. Puis il faut s'auto-évaluer. C'est-à-dire, on se met des notes de combien à telle place. Et là, je me souviens, je rentre dans une salle où ce qu'ils me font venir avec tous les entraîneurs de l'organisation et les pisteurs, puis ils disent, là, ils m'ont dit mes objectifs d'eux face à moi. Tu vas être dans le baseball majeur d'ici le mois de juin. On t'a coté, ils m'ont tout mis ce qui cotait ma glissante, ma rapide, tout ce qui fait qu'on voit pas. La seule affaire qu'on veut que tu fasses, c'est ça, 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 puis après ça, on va te monter. Finalement, j'ai jamais monté. Donc, j'ai jamais arrivé à jouer dans le baseball majeur. Et il est arrivé des blessures, toutes sortes de choses à travers tout ça. Mais expérience vraiment, vraiment tripante. Puis évidemment qu'il y a plein d'anecdotes à travers tout ça parce que je suis dans la naïveté totale. Je sais pas, je suis pas toujours conscient de tout ce qui se passe. Juste une anecdote qui arrive.
C'est ça qu'on veut.
Je suis un de mes premiers matchs professionnels avec Pittsburgh, justement. Je suis dans les mineurs. Et jusqu'en sixième manche, ça va bien. Je pense que je donnais un point, donnais quelques coussures. Puis là, je me retrouve en six, septième manche, puis donne un coussure, un autre coussure, un but sur balle, un autre coussure, donne un point. Et là, le coach demande time-out. Puis juste par par sa démarche, tu peux voir dans son langage corporel que je vais me faire ramasser un peu. Ouais, il arrive devant moi avec le receveur, puis il me dit Frenchy, what the fuck? What's going on? I don't know. Fait que là, il me regarde, puis il me dit, when's the last freaking time you threw inside? C'est quand la dernière fois que tu as lancé à l'intérieur. Mon anglais n'est pas très, très bon. J'arrive dans le baseball, tout ça. Et au baseball, ben tu lances à l'intérieur ou tu lances à l'extérieur. Puis il me demande c'est quand la dernière fois que tu as lancé à l'intérieur. Et pour moi, c'est à l'intérieur. Puis avec l'ABC, on pratiquait au Stade olympique à l'époque. Fait qu'il me demande c'est quand la dernière fois que tu as lancé à l'intérieur. Fait que je réponds in Olympic Stadium. Et là, il me regarde, puis il dit il revirait de bord. Il revirait quand même de bord avec son receveur. Puis quand j'ai terminé la game,
c'est pas drôle,
mais... il m'attendait, puis il m'a fait venir dans son bureau, puis il riait encore. Puis il dit, écoute, il dit, est-ce que tu comprends qu'est-ce qu'on me dit? Tu sais, des choses comme ça. Donc, mon bagage de baseball était toujours en retard. Je me retrouve sur le terrain, puis j'ai Andy Van Slyke dans le champ centre, j'ai Jay Bell au deuxième but, j'ai Don Stock les catchers. Tu sais, il y a 2-3 ans, ben, tu regardes à la TV, mais tu joues à peine au baseball, puis là, tu te retrouves sur le même terrain qu'eux autres. Donc, il y a toute une subtilité qui se passait que je comprenais pas. Puis eux autres riaient de ça tellement, parce qu'ils disaient, le gars a aucune espèce d'idée de ce qu'il fait. Tu sais, je veux dire, je donnais la main à des gens au temple de la renommée que je disais salut, t'as-tu joué au baseball beaucoup toi dans la vie, tu sais, puis c'est Jim Rice, c'est fait qu'il y avait, puis ça, tout ça a tellement bien passé, puis les gens ont tellement été corrects avec moi dans tout ça, dans toute cette naïveté, qu'en même temps j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir parce que j'avais pas la pression du kid qui joue depuis l'âge de 5 ans puis qui dit j'ai tout fait les efforts dans ma vie, il faut que ça marche sinon ça sera pas correct. Moi, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Là. C'est sans regret, c'est avec du plaisir. Puis j'allais dans une nouvelle ville, puis je voulais tout découvrir, puis je voulais tout voir. Donc, Wow. Ça a été des beaux moments.
Hey, c'est incroyable. Pour vrai, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, un directeur artistique, un gars qui fait des films dans la vie, là, faites un film sur Michel Laplante. Je vous garantis que c'est un succès au box-office, ça n'a aucun sens. Écoute, tu as un parcours phénoménal. Je veux savoir, c'était quoi ton feeling lorsque tu as appris que les Expos de Montréal s'intéressaient à toi au point de t'offrir un contrat?
Situation vraiment, vraiment, vraiment pas facile parce que on fait un saut dans le temps. Là, donc, suite à ces années-là, bon, je m'en vais jouer, comme tu avais dit tantôt, à Taïwan.
Oui, excuse, parle-en avant, je veux pas skipper les
Non, non, au contraire, au
okay.
contraire.
On va en parler après.
Après ça, ça a continué. Donc, je joue au baseball là, vraiment sur une période de 7-8 ans des mineurs. L'opportunité de Taïwan est vraiment tripante parce que le calibre de jeu est une fun. Monétairement, c'est la première fois que je faisais un peu de sous, tout ça, fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais je reviens jouer aux États-Unis en pensant que je vais pouvoir jouer 3A, tout ça. Et j'ai la rencontre de Miles Wolf, qui est propriétaire d'une équipe à Madison, au Wisconsin, qui me dit, dans une fin de saison, il me dit, écoute, je veux partir une équipe à Québec. Tu viens de Québec. Tu parles français. Il dit, est-ce que tu aimerais te joindre à moi pour qu'on parte cette équipe-là? Et honnêtement, ça m'intéresse plus ou moins parce que t'es-tu en train de me dire qu'il faudrait que je pense à faire autre chose parce que déjà, t'es susceptible un peu, t'as 28 ans, tu remontes pas 3A comme tu souhaitais, fait qu'il est en train de dire le message, faudrait que tu fasses autre chose. Puis deuxièmement, je viens pas de Québec, je suis jamais allé à Québec. C'est marqué à côté de moi toutes les fois Québec, mais c'est Quebec Province, c'est pas Québec City. Fait que là, j'y explique ça, puis il dit dans la langue. Il dit, dans le fond, c'est le meilleur des deux mondes que je te propose. On s'en va à Québec, on part ce qui va s'appeler éventuellement les capitales de Québec, mais on part une équipe de baseball professionnelle. Tu travailles avec moi dans les bureaux et quand arrive le temps de la saison, ben, tu redeviens joueur. Donc, tu peux faire ça pendant des années. Et c'est ce qui est arrivé. Ça a été la plus belle opportunité de ma vie. Je donne ma conjointe donne naissance à Janelle, ma plus vieille, le 11 octobre 2018. Et une semaine plus tard, on déménage à Québec et on démarre ce qui est un projet là, qui finalement, ça fait 22 ans que ça dure. Mais de participer à c'est quoi le nom de l'équipe, pour quelles raisons, les logos de l'organisation, la mascotte, les prix des ventes, tout ça, ça me fascine dans le fond autant que la game. Et tellement que, arrive la saison 99, le premier match, le retour du baseball professionnel à Québec après 22 ans. Et ça a été une année incroyable. Et j'ai personnellement une bonne année de baseball. Donc, nommé lanceur de l'année dans le baseball indépendant en Amérique, tout ça. Donc, je signe. J'ai un offre à la fin de l'année des Braves d'Atlanta.
Et, ça revient au début, les Braves.
j'ai un offre des Braves d'Atlanta. Et une journée plus tard, j'ai un offre des Expos de Montréal. C'est drôle parce que le gars des Braves, là, tellement spécial, il est descendu de la Géorgie à Val-d'Or. J'étais à Val-d'Or à la fin de l'année à ce moment-là. Puis il a dit non, je m'en viens de voir chez vous. On a fait un petit monticule en terre qu'on a tapé à Val-d'Or dans un parc.
Wow.
Ma femme, elle tenait le radar, puis lui, il me catchait. C'était un gros scout là, des Braves d'Atlanta. Il est là.
Débile.
Il me scout, puis après ça, on s'en va manger au Saint-Hubert. Et il me dit, écoute, Michel, je veux te donner un contrat là. T'es le genre de joueur qu'on veut, tout ça. Mais je dis, écoute, vous avez Maddox, Glavin, Avery, Smoltz. Et où ma place, moi, dans cette organisation-là? Et il dit, t'es exactement le genre de lanceur qu'on veut. Il dit, je te donne 24 heures, réfléchis à ça. Et dans les 12 heures qui ont suivi, les Expos sont arrivés avec une offre. Et là, je regardais, les Expos n'allaient pas bien. Je regardais qu'est-ce qu'il y avait besoin, tout ça, puis j'ai fait l'erreur, puis je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait l'erreur, mais j'étais allé avec les Expos en pensant que j'avais une meilleure chance là. Et finalement, c'était pas le bon choix.
c'était vraiment pas le bon choix,
je veux dire. Même si j'aimais, je voulais jouer pour Montréal les Expos, je veux dire, l'organisation,
elle allait
pas bien, puis pas juste qu'elle allait pas bien, c'est qu'à l'intérieur, ça travaillait en silo, l'organisation avec les joueurs. Il y avait une insatisfaction de la part. Ça tirait pas dans le même sens, puis tout ça. Puis je me suis aperçu. Et personnellement, j'ai pas eu un bon camp. Un camp qui a été horrible. Et j'ai été intimidé dans le camp par le fait que je devais pas avoir ma place là. Fait que j'ai vécu un des pires camps de ma vie, sinon le pire. En arrivant dans le camp d'entraînement, j'ai senti que on me disait, mais qu'est-ce que tu fais ici? Puis parce que tu es Québécois, on t'a signé, sinon on t'aurait pas signé. Et il y avait des instructeurs que c'était... écoute, à ce moment-là, j'ai quand même 7-8 ans d'expérience professionnelle de baseball. Je vais te donner un exemple. Je suis quelqu'un qui fait très attention à ma défensive, qui tient tout ça. Puis là, on m'avançait des points que j'avais jamais vus dans ma vie, qui se tenaient pas debout. Et tout était comme... la communication était pas bonne. À deux reprises, je m'en vais m'entraîner d'une salle de poids dans le tapis parce que c'est vraiment marqué sur l'horaire que je lance pas cette journée-là, puis on vient me voir en train de m'entraîner, puis on dit « Hey, on a fait une erreur, mais tu lances tantôt. » C'est à 2 heures d'avis.
Pas professionnel, ça.
Non, ça a été vraiment la pire expérience baseball frustrante que j'ai vécue dans ma vie, ça a été ça. Avec le regret de dire « J'aurais donc dû aller avec les Braves d'Atlanta. » Et comme défaite, je suis rétrogradé à Ottawa, je fais un mois et je suis malheureux et je veux juste partir et je me donne pas la permission de quitter l'organisation parce que je me dis quand, tant qu'un uniforme sur le dos, tu ne demandes pas à être pris. Et par totale libération, je me souviens encore, le coach il me fait venir dans le vestiaire à Ottawa puis il me dit écoute, on est obligé de te laisser aller, tout ça, c'est une question de chiffre. Et soulagé comme ça se peut pas. Et comme défaite, une semaine plus tard, je signe avec les Braves d'Atlanta.
Ah, OK.
Et j'ai été traité aux petits oignons et ça n'a pas fonctionné. J'ai une blessure que je traînais depuis l'année passée, mais j'arrivais à cacher, puis je ne les montrais pas. Mais là, je veux dire, j'étais rendu à 84, 85, 86 000 à l'heure. Je me battais, j'essayais de me défendre, tout ça, mais c'était quelque chose qui n'était pas facile. Mais au moins, ça a fini tellement positif, ma carrière avec les Braves d'Atlanta. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et suite à ça, j'ai été opéré. J'ai pas été capable de relancer comme je souhaitais. Et je suis retourné à mes anciennes amours, recommencer à enseigner le tennis. Ils étaient dans un programme sport-études ici à Québec. Et j'ai fait ça pendant quelques années. Ensuite, j'ai pu revenir dans le baseball avec les Capitals.
Hey, quelle incroyable histoire. C'est de plus en plus fou. Non, écoute, je te dis, j'en prendrais pendant des heures de même. Puis c'est le genre de podcast que j'aime mieux pas parler, pour vrai. Il y a des podcasts, quand je parle trop, c'est pas bon signe. C'est parce qu'il faut que je patine plus. Non, là, c'est vraiment exceptionnel. Puis j'ai tellement peur d'en oublier. C'est sûr, on va finir le podcast, puis je vais t'écrire. Je vais dire, ah, shit, j'ai oublié de te parler de ça. C'est clair, net et précis. Là, c'est sûr qu'on parlait vite de ton expérience en Taïwan. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, moi, je m'en vais m'exiler aussi loin que ça? Est-ce que ça te faisait peur? Parce que tu parlais d'un changement de culture au niveau de l'anglais. J'imagine pas, là-bas, la culture est complètement différente de la nôtre. Avais-tu peur un peu avant de faire ce changement-là? Surtout, tu avais une femme, j'imagine. C'est pas évident non plus, là.
Écoute, j'ai un enfant, j'ai 3 enfants, mais j'en ai une de 22 ans qui fait juste me dire des fois qu'elle souhaite aller au Chili, puis être allée se promener un petit peu en Europe, tout ça. Puis, je peux pas lui dire non. Moi, j'ai vécu l'aventure comme ça se peut pas. Avoir jamais peur de rien. Et c'est très, très, très sincère. Quand je suis parti à Taïwan, je fais un camp en Floride. On rassemble une trentaine de joueurs professionnels en Floride. On en rassemble une trentaine en Californie. Et suite à ce camp-là, il y a 4 joueurs de chacun des camps qui sont choisis pour aller jouer professionnellement à Taïwan. Mais avant ça, il va y avoir un camp de 2 mois. Et je me souviens encore, je prends l'avion d'ici, puis j'atterris à Taipei. C'était comme des films, là, tu sors de l'avion, puis il y a quelqu'un qui a une pancarte qui est marquée Michel Laplante, pas écrit de la bonne façon. Puis là, finalement, ben, tu parles à la personne, puis tu t'attends à ce qu'il soit capable de glisser une couple de mots en anglais. À ce moment-là, mon anglais est quand même assez bon, puis tout ça, puis il va pouvoir te parler. Même pas. Fait que, dans le fond, embarque dans une voiture avec lui, puis il t'amène dans un endroit, puis écoute, j'étais le seul joueur canadien qui était là, puis j'arrêtais pas de rire, je m'amusais, je trouvais ça tout trippant. Ça, pendant j'ai habité là 364 jours. Ma conjointe est venue me rejoindre après 2 mois, puis on a habité là-bas ensemble, puis on s'est promené en Asie, puis on s'est trouvé un loyer, je me suis acheté un scooter où je voyageais tout là-dessus. Puis, ce qui est assez spectaculaire dans cette aventure-là, c'est que Il y a eu un tournoi de 2 mois, puis suite au tournoi de 2 mois, on te repêchait dans les 4 équipes qu'il y avait. Et j'ai eu vraiment un bon tournoi dans ces 60 jours-là là, qui a été. Et à la suite de tout ça, j'ai été repêché en première ronde. Et il y avait des joueurs qui avaient joué dans le baseball majeur, tout ça, donc c'est un peu étonnant. Et je me souviens, je suis dans une grande salle parce que la télévision couvre tout le repêchage puis tout ça. Et je suis choisi, mais je ne peux pas copier ce que quelqu'un d'autre fait parce que je n'ai pas vu comment que ça se fait. Fait que là, tu as les spots d'en face. Il faut que tu ailles sur la scène en avant. Mais tout ça se dit en chinois. Là, j'ai aucune en mandarin. J'ai aucune idée de ce qu'il dit.
Michel Laplante en mandarin, ça doit être spécial.
Ah, mais écoute, je ne comprends vraiment pas ce qu'ils me disent. Je donne la main à l'agent qui est là plutôt qu'au directeur général parce que je ne sais pas qui est qui. Je suis tout mélangé. La scène est complètement, complètement drôle. Il y a des joueurs américains qui étaient là qui sont crampés parce qu'ils me voient aller. Et suite à ça aussi, bon, ben, parce que tu es un joueur étranger qui passe en première ronde, ben, rapidement, tu deviens connu. Tu sais, la densité de population est énorme à Taïwan, tout ça. Puis c'était très, très gros, le baseball. On dépassait le million de codes d'écoute par match. Des matchs qui étaient télévisés.
C'est une religion là-bas, là.
Ouais. Et suite à mon premier départ, j'ai lancé le premier match de la saison. Et on vient me porter mon uniforme le matin. Ça cogne à la porte de ma chambre d'hôtel, puis il est à peu près 8-9 heures. On me donne mon uniforme, puis c'est ce que je vais porter le soir. Et là, on me donne mon nom en chinois. Je tourne mon chandail de côté, et dans le dos, c'est écrit en chinois. Et là, je demande, je dis, c'est quoi qui est écrit? Et il dit, Le Fan Tian. Donc, ça s'écrit, ça veut dire Le Fan Tian. Et ça veut dire heureux à en virer le ciel à l'envers. Fait que je dis, pourquoi vous m'appelez Le Fan Tian? Fait qu'il dit, écoute, t'es toujours souriant, t'es toujours de bonne humeur avec les gens. Fait que c'est ton. Il y avait une personne qui était toujours joyeuse de même. Fait qu'on t'appelle comme ça ici. Fait que je décide, je me souviens, je prends 2 punaises, je mets ça au-dessus de mon miroir dans la chambre où j'étais. Puis pendant 3-4 heures, je me suis dit, c'est pas vrai que quand on va me demander un autographe, je vais signer Michel Laplante. Fait que je vais signer Le Fan Tian en chinois, en mandarin. Excusez. Et comme défaite, en 3-4 heures, j'ai appris comment l'écrire. Et le soir après le match, quand le match est terminé, j'ai tout signé les balles, puis les cartes des gens, puis tout ça, en mandarin. Wow. Et ça, ça a fait une histoire de fou. Puis les gens pensaient que je parlais le mandarin.
Ah, non.
Là, j'étais invité dans des talk shows, dans toutes sortes d'événements. Puis des fois, on me passait le micro. Puis j'ai appris peut-être 60 mots en mandarin, pas plus que ça. C'est une langue qui est très, très, très complexe. Puis mes intentions de l'apprendre étaient tellement bonnes.
Ah, non.
Mais j'ai pas été capable de le maîtriser, tout ça. Mais c'est très drôle dans les aventures que j'ai été amené pendant un an où ce que, écoute, j'ai fait partie d'un show qui s'appelait Jeopardy, mais en mandarin. Et j'ai encore plein d'images de tout ça que j'ai, la vidéo, tout ça. Mais je dois participer à un concours que je comprends pas vraiment.
Hey, si jamais tu as une photo de ça, envoie-moi aller. Je fais un montage photo pour le podcast afin qu'elle va être disponible sur YouTube. Là, si jamais tu en as une, envoie-moi là, je vais la mettre, c'est garanti.
Je vais le faire, c'est sûr.
Hey, ça va être écœurant. Écoute, hey, c'est débile quand on parle d'être à la bonne place au bon moment. Fait que c'est vrai, dans le fond, que tu es vraiment devenu comme une vedette rockstar un peu en Taïwan pendant le temps que tu étais là. Les gens te reconnaissaient dans la rue. Les gens, tu sais, c'était incroyable. Fait que si ta fille ou une de tes filles va là-bas, juste à dire là, Fontaine, puis ils vont être reconnus de cette façon-là, probablement. Là.
Ben, il y a quelques années, il y a une personne de Taïwan qui a vu un match des Capitales. Puis on a pris une photo ensemble. Puis c'est drôle parce que tu sais, je le prononce pas parfaitement mon nom. Puis j'ai entendu une personne, fait que je me suis retourné. Puis là, on a pris une photo ensemble. Puis il m'a comme fait comprendre, il disait, t'étais mon idole là-bas, tu sais, parce que c'était vraiment plus grand, exagéré, mais ben, je pouvais partir en scooter puis arrêter à une lumière rouge. puis les scooters d'à côté venaient me toucher, tout ça, parce qu'ils étaient là, le fantienne.
T'as l'impression d'être dans un autre monde.
Carrément dans un autre monde, puis ça a été une aventure extraordinaire, puis je suis pas retourné pour une deuxième saison. Il y avait une affaire qui était moins le fun, c'est qu'il y avait du gambling, puis beaucoup à part ça. Donc, c'était dangereux. Donc, les joueurs pouvaient se faire approcher pour certaines sommes d'argent pour briser des parties ou des choses comme ça. Donc, c'était pas très, très sécuritaire de retourner là une deuxième année. Fait que j'ai préféré revenir ici.
C'est justement ma prochaine question. Qu'est-ce qui est fait quand on vit la célébrité dans un autre monde complètement? Ça donne plus le goût de revenir dans le baseball mineur et être un parmi tant d'autres, là, j'imagine. Là, c'est un peu. Ça a dû te faire quand même un certain clash de dire. T'as été vraiment comme un idole d'un peuple. Là, t'en reviens au pays en Amérique du Nord, puis t'es vraiment un joueur qui a un talent, mais qui est vraiment parmi d'autres joueurs talentueux aussi. Fait que ça a dû te faire un clash quand même. Là.
Ouais, mais t'es pas à la recherche de ça. Tu sais, ce que tu veux, c'est jouer le plus haut niveau de baseball que tu peux. Puis, c'était ça mon intention. Puis, il aurait fallu que j'aie un offre pour le Japon. C'est ce que je souhaitais vraiment, tout ça. Puis, l'offre n'est pas venue. Puis, des fois, on fait des bons moves, des fois, on en fait des moins bons. Mais moi, je voulais vraiment venir jouer dans le baseball majeur en Amérique. Puis, je suis revenu en pensant que j'avais un contrat 3, ce qui n'a pas fonctionné tout de suite. Ça a pris un an après. Mais, tu sais, mon chum, qui était avec moi, lui, est retourné jouer un autre année à Taïwan, puis après ça, il a joué 3 ans au Japon. Et il avait une expérience incroyable au Japon aussi. Donc, ça dépend comment on se sent à ce moment-là. Tu sais, on a des décisions à prendre, puis tout ça. Puis moi, je voulais m'en revenir. J'avais trouvé, j'ai pas bougé de là pendant un an au complet. J'ai habité là, puis tout. Puis à un moment donné, j'ai dit non, je m'en vais. C'est quand même une zone, là, c'est beau pareil, Taïwan, mais c'est très pollué, c'est très dense comme population et tout ça. Donc, pour moi, c'était assez comme aventure, comme expérience.
Écoute, tu t'en rappelles toute une vie, ça c'est certain. Puis, comme tu dis, le Japon aurait probablement été une autre expérience, le fun à vivre aussi, parce que c'est très, très populaire, le baseball au Japon. C'est un mode de vie quasiment là-bas. Écoute, là, je saute tout de suite du coq à l'âne. Là, on a parlé de ta carrière de joueur. Je vais parler de ta carrière maintenant de gérant avec les Capitales de Québec. Parle-nous de tes championnats, ton premier championnat vraiment que tu as vécu avec les Capitales. L'ambiance dans la ville, le feeling que tu as sur le banc. Est-ce qu'il y a un côté de toi qui dit « j'aurais aimé être sa butte encore » ou « c'est-tu pareil comme feeling » ou tu te ressens un certain manque que tu dis, ça ne remplace pas un championnat comme joueur?
Ben, à partir de 2005, je fais l'écart des Capitales pour à peu près un an ou deux, mais toujours près quand même de Miles Wolf, avec qui on a travaillé ensemble puis tout ça. Et il m'offre le poste à l'hiver 2004. Puis dans les 3 premières rencontres, c'était non. Puis je me voyais pas être gérant. J'ai jamais eu ça comme ambition. Puis la dernière rencontre, il me dit, si tu prends pas le poste, je déménage l'équipe.
Wow.
Et là, j'ai fait, ben non, on peut pas déménager ça, le projet, tout ça. Puis ça allait mal financièrement, tout ça. Fait qu'il dit, on le laissait, Michel t'embarque avec moi, on le laissait ensemble, sinon je déménage. Fait que finalement, j'ai pris l'équipe. Un peu pas mal nerveux, parce que c'est quand même beaucoup de responsabilité de prendre l'équipe comme gérant. Mais en même temps, il me l'a fait avec carte blanche. Donc, il me l'a mis sur un plateau, puis il a dit, t'amèneras tes règles, ton système de valeurs, tes choses comme ça, ce qui est une opportunité très, très rare. D'arriver avec, comme je dis, carte blanche, puis vas-y, gère à façon. Fait que je pense que j'ai été un gérant très, très, très différent. Je voulais l'être aussi parce que dans tous ces moments-là, tu sais, j'ai eu à peu près 25 coachs différents entre toutes mes équipes avec les Pirates de Pittsburgh, avec les Padres de San Diego, avec mon passage avec les Expos, celui avec les Braves, à Taïwan, puis partout dans le baseball indépendant. Puis il y a un avantage, c'est que d'avoir fait du tennis, du hockey avant, il y avait une belle analyse, même si j'étais assez jeune, là, j'étais dans la vingtaine, de ce que le coach disait et ce qui se passait dans ma tête. Donc, on vient d'avoir un speech dans la chambre où ce qu'on vient de subir 2 défaites, puis le coach s'exprime, puis il crie quasiment après ses joueurs. Puis après ça, je suis dans l'autobus, puis là, je me dis, je suis tout seul, parce que des fois, je me retrouvais tout seul, puis je dors pas en autobus, puis là, je réfléchissais pendant des heures. Est-ce que moi, j'aurais fait les choses de telle façon en gestion, en coaching, en ci, en ça? Puis pourquoi ils disent les affaires de telle façon? Fait que moi, je suis pas imprégné depuis la naissance dans le baseball. C'est tout neuf, fait que c'est comme si j'arrivais avec une réflexion blanche. Puis je me disais, j'étais en forme d'analyse constamment sur ce qui se disait. Et là, tu as l'opportunité de coacher puis d'amener comment toi tu vois les choses. Fait que ça a été extraordinaire. Et fait que j'ai fait l'année 2005. Je pensais de faire seulement un an ou deux. Finalement, j'ai pas eu ça. L'année 2006, je deviens coach, mais directeur général administratif aussi de l'organisation. Mm-hmm. Ça a été des années très occupées. Puis à ce moment-là, on démarre la compagnie B45 en même temps. Ça fait seulement 2 ans. J'ai 2 enfants, 2 jeunes enfants. Fait que ça a été des années où ce que au niveau du travail, c'était du 15 heures par jour. C'était sans arrêt, puis tout ça. Mais j'avais l'énergie pour le faire et je coachais de façon énergique. Ce que je veux dire par là, c'est que je disais pas seulement aux joueurs quoi faire, je les accompagnais dans leur entraînement. Je me disais, si ça ne suffit pas de dire aux joueurs, hey, ramassez l'équipement, ben, si j'en ramasse avec eux autres, ben, je vais être un bon modèle, puis ils vont embarquer dans tout ça. Donc, de coacher de cette façon-là, c'est aussi très épuisant. C'est des belles valeurs, mais c'est épuisant. Donc, j'ai fait ça 2005. 2006, on gagne le championnat. Et ça a été extraordinaire. Là. Toutes ces années-là, ce qu'on a vécu, la proximité avec les gens, l'implication, puis tout ça. Puis ça venait... 2006 est venu comme la 7e année dans l'organisation que les capitales étaient à Québec. C'est venu comme... amener quelque chose de vraiment le fun. Je pense qu'il y avait aussi les Remparts qui avaient gagné cette année-là, le Rouge et Or. Donc, ce qui se passait en ville était très, très, très positif.
C'était très le fun à Québec dans ce temps-là.
Oui, c'était très le fun à Québec. Ensuite de ça, est arrivé les années là, 2007-2008. Et là, tranquillement, est arrivé les Québécois aussi qui, possiblement parce que j'étais là un peu ou qu'il y avait d'autres joueurs, mais que là, ils quittaient au niveau offert d'Europe et ils s'en venaient jouer à Québec. Donc, on se ramasse en 2009 avec Pierre-Luc Laforêt, Patrick Scalabrini, Patrick Deschênes, Sébastien Boucher, Éric Gagné. Ah, je veux dire, tous ces joueurs-là dans la même équipe. Michel Simard, Carl Gélina. C'était comme une équipe de rêve. Tous ces joueurs-là avaient passé par l'ABC à une époque différente et ils avaient tous, chacun, entendu parler de l'un et l'autre. Et là, ils se retrouvent tous dans la même équipe pour l'instant d'une saison. Ça a été une année extraordinaire.
Quand tu arrives dans le vestiaire puis tu vois ce Dream Team-là tout ensemble, dans un rêve les plus fous, tu n'aurais jamais imaginé ça à Québec. Et puis là, tu as tout ça à coacher. T'sais, tu te sens comme un peu un coach au match des étoiles. Là, un peu, tu as des gars comme Éric Gagné. Qu'est-ce que tu veux lui dire quand tu arrives, ça bute, quand ça marche un peu moins bien? Ou tu ne peux pas lui dire à Éric, tu peux-tu faire ça? Il a déjà tout vécu dans les majeurs. Il a déjà les records
absolus. Il n'est pas comme ça. Tu as eu la chance d'y parler. Ben puis Eric, là, quand il est sur un terrain, c'est un enfant. Là.
Ouais.
On a tellement été étonnés de ça. Ah, son désir de gagner, puis un coup qui était sur le terrain, la visite au Monticule, évidemment, n'est pas facile, là, parce que tu dis, je vais aller dire quoi à un gars qui a gagné le Cy Young. Mais dans le fond, là, il a besoin d'être rassuré comme tout le monde. Eric, le premier match qu'il a lancé à Québec, il y a quelqu'un qui me dit, faudrait aller voir Eric dans le champ. Puis Eric est en train de s'échauffer, on est 30 minutes avant le match. Puis là, Pierre-Luc me regarde en me disant, il va pas bien. Puis là, je m'approche d'Éric, je dis, qu'est-ce qu'il y a, Bonnet? Puis là, il a comme les yeux un peu dans l'eau, puis il a l'air nerveux, tout ça. Il dit, je sais pas quoi dire, Mike. Il dit, je suis nerveux comme ça se peut pas. Puis là, ta première réaction, qui est pas la bonne, c'est de dire, non, il t'a lancé au Dodger Stadium devant 50 000, tu mets l'eau d'Éric. C'est impossible que ça. Et il dit, non, c'est pas pareil, là. Ma famille est ici, mes proches sont ici.
La réaction du public, il faisait peur.
La réaction du public, ça va être comment? Puis tout le kit, puis il était tout émotif. Là, j'ai dit, wow, je l'avais pas vu de même. Là. Puis Eric a raison, dans le fond, c'est d'avoir 50 000 ou 5 000, il n'y a pas de différence. Mais les gens à qui tu tiens dans la vie, qui sont présents, puis qui vont te regarder, là, c'est très, 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 très différent. Puis il avait tout à fait raison. Et c'est un match qui avait été très difficile pour Eric. Il n'était pas en contrôle dans l'avant-match. Il s'est présenté dans le match, il a donné 3 points en partant. Et écoute, je t'en parle, j'ai encore les mains moites, là. J'étais nerveux. Puis là, tu te dis, quand est-ce que je le retire? Le stade était bondé. Et finalement, il y a quelqu'un qui a crié dans les estrades. Éric, on t'aime. Au lieu de crier n'importe quelle bêtise qu'il aurait pu crier. Et Éric a lancé une prise. Après ça, il a retiré le joueur, il s'en est sorti. Puis finalement, il a lancé ses 3, 4, 5 manches. Et à partir de là, ça a été une année extraordinaire. Ben, extraordinaire. Est extraordinaire parce qu'il y a eu des bas puis des hauts. C'est ce qui fait que les hauts étaient extraordinaires. Quand on le regarde, on a tout gagné. On a gagné finalement cette année-là, puis ça a été un championnat qui va être mémorable pour toujours.
Si j'ai une bonne mémoire, c'était pas lui qui l'avait closé d'ailleurs, le championnat, la dernière balle lancée pour remporter le championnat, c'était-tu Éric?
On a toute l'impression de ça.
Ouais, je sais pas pourquoi. Hein?
Ça,
la toune à Bob qui fait cette impression-là, c'est peut-être ça.
Exactement. Et pourtant, Éric a été gagné le troisième match à Québec qui faisait contre devant 2-1 en série. Et c'est Carl Gilina qui a lancé le dernier dans un blowout. Je pense qu'on avait gagné 10-0. Puis ces deux matchs-là avaient été back-à-back absolument incroyables parce que Éric, ce match-là, ça s'était terminé avec tout le monde debout. C'est encore pour moi le moment le plus intense, 5 minutes qu'il y a eu dans l'histoire des Capitales, c'est celui-là où Éric lance ses derniers lancers de ce match complet-là.
Mm-hmm.
Et le lendemain, Carl avait lancé un match incroyable. Puis je peux pas besoin de te dire que les jours qui ont suivi, on n'a pas dormi bien.
J'en doute pas. Non, Éric m'en a conté un bout dans mon podcast. Oussoué Pellé aussi m'en a raconté un bout d'un party sur un île quelconque, je sais plus trop. Là, ça,
ouais.
Avec ouais. Bob, justement, là, il y avait eu des belles anecdotes qui se sont passées dans ces jours qui ont suivi là. Mais
Éric faisait des choses qui étaient très, 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 très spéciales. On a beaucoup à apprendre de ça. Il partait sans nous le dire. Puis là, ben, il y avait des tumeurs. Et tout à coup, on arrivait, on voulait partir. Mettons qu'on est dans la région de Boston. On s'en va au stade à 2 heures. Puis Éric est pas là. Puis là, finalement, je recevais un texto qui disait je prends pas l'autobus. OK. Fait que là, OK, autobus, on y va, on part. Puis on arrivait au stade. Puis il y avait un buffet dans la chambre au complet. Éric avait pris le temps de 1h30 avant d'arrêter dans un restaurant, de choisir des choses pour tout le monde. Puis là, tu te dis, il a vraiment pris le temps de faire ce geste-là. Puis tu sais,
débile.
Ça c'est pas juste d'avoir l'argent pour le faire, c'est de prendre le temps pour faire tout ça. Puis le fameux party qu'on a eu sur l'île, imaginez que on fait 10 heures d'autobus en s'en venant de New York et on arrête sur l'île où Éric avait du paintball puis tout ça. Et les joueurs savent pas vraiment ce qui s'en vient. On a une journée de congé le lendemain. Fait qu'on arrête à Repentigny, proche de la marina puis tout ça. Puis il y a des bateaux qui nous attendent. Fait qu'on embarque toute l'équipe sur un bateau. Il est rendu genre à minuit le soir. Et là, on s'approche d'une île où il y a des lampions qui sont allumés et tout ça. Et c'est Bob qui nous attend avec sa guitare, avec des bûches où on est tous assis autour d'un grand feu. Puis Éric avait tout préparé ça.
J'en ai des frissons, c'est pas drôle, là. C'est comme la version un peu du paradis, là. Tu sais, t'arrives sur une île, t'as Bob qui t'attend avec une guitare, puis t'as Éric Gagné qui t'organise une fête. Tu sais, moi, si je meurs demain matin, là, je veux arriver, puis c'est ça que je vois, c'est sincèrement, là. C'est incroyable comme image. Alors,
des détails qui me marquent encore, là. J'avais déjà dit, on avait déjà dit dans l'autobus que moi, un de mes desserts préférés, c'était les gâteaux caramel Vachon.
Ah oui, les
Puis l'autre, il disait, moi, c'est les céréales avec du miel, tel. Puis c'est des conversations tôt dans le courant d'une saison, là, tu sais, que tu genres. Mais là, t'arrives sur ce style-là, puis il y a ma boîte de gâteaux caramel, puis Eric, il dit, garde, Mike, ce que je t'ai trouvé. Donc, là, il y a ça, il y a les céréales préférées d'un, il y a les Pop-Tarts préférées de l'autre. Il y a tout ça sur l'île, là.
Il est attentionné pour vrai, là.
Non, c'est vrai, entre minuit et 4 heures du matin, fait que t'écoutes du Bob en mangeant tes gâteaux caramel préférés, c'est ça.
Pour donner encore plus les frissons aux gens, donc tout de suite après ceci, vous allez voir le montage d'Éric Gagné qui se fait soulever de mémoire par ses coéquipiers à la toute fin, qui salue la foule en levant sa casquette. Alors je vous souhaite un bon visionnement de ce court extrait, on revient tout de suite après.
De tirer vers la première balle et la foule s'amuse au stade municipal. Toute une performance d'Éric Gagné. Le tir suivant, balle frappée hors ligne du côté du troisième, c'est maintenant 1-2. Dernier retrait. Ça bourdonne dans les gradins. Le tir. troisième prix. C'est gagné, lève les deux mains en l'air en signe de victoire. Alors que ses coéquipiers vont aller le féliciter au monticule.
Je veux vraiment avoir une autre anecdote. As-tu quelque chose qui t'est arrivé sur ce style-là avec Bob, vu que tant qu'à tête dans la semaine spéciale Bob Bissonnette, qu'est-ce qui t'a marqué de cette soirée-là? Si tu t'en rappelles, là, parce qu'ils ont ri quand même certains bouts que les gens ont oubliés de cette soirée-là, j'imagine que ça a fait effort, mais y a-tu quelque chose qui t'est arrivé à un moment de la soirée avec Bob qui t'est plus marqué que d'autres?
Absolument. En fait, c'est que on avait un autobus où il y avait des lits dedans. Donc, imaginez qu'à 3-4 heures du matin, on revient dormir dans l'autobus, tout le monde. Et à 8h30, les portes de l'autobus ouvrent.
Oh.
Et c'est Éric Gagné qui était bien en Rambo. il y a carrément un saut de camouflage. Il y a une mitraillette. Il y a des fusils, évidemment, des fusils là, pour tirer le paintball. Il est équipé comme ça se peut pas. Il y a des barres noires en dessous des yeux. Il y a une calotte camo avec toute l'équipe. Et là, il me crie après, puis il dit, vous allez l'autre côté de la rue déjeuner, ils vous attendent, puis dans une heure, on commence nos combats. Et on était allés déjeuner. Et quand on est arrivé sur l'île, il nous a tout expliqué le règlement. On a tout eu les guns, tout l'équipement, tout l'habillement, puis on a joué toute la journée dans différents jeux qu'il y avait. Avec toute la gang, avec Bob, avec Eric, avec tout le monde, puis ça avait été. Et on en parle encore aux joueurs. D'ailleurs, on avait fait l'initiation de certaines recrues que tu n'as plus le droit de faire en 2021, ce qu'on a fait dans ce qu'on nous a demandé de faire. rien de méchant, mais je veux dire, imaginez qu'on se retrouve 5 recrues contre 20 autres gars dans une game de paintball.
Ouais.
Et les recrues, ils jouent en seulement en bobette, puis ils ont seulement une lunette. Ah. Protéger les yeux.
Au moins, il y a Jackstrap, j'espère. J'ai mal pour eux.
Ils sont peut-être maganés un peu. Donc,
ça me rappelle le souvenir du junior. C'est vrai qu'on a plus de ça, mais pour vrai, ça solidifiait l'esprit d'équipe là, quand on restait dans la mesure du raisonnable. Là, ça restait le fun.
C'était pas quelque chose qui avait été dangereux ou qui avait été dénigrant ou n'importe quoi. Je pense que les jeunes s'en souviennent encore puis ils disent encore aujourd'hui que c'est une des plus belles journées de leur vie. Puis, honnêtement, ça, c'est arrivé plus vers la fin de l'année. Puis après ça, je pense qu'on a gagné quelque chose comme 13 des 15 prochains matchs, quelque chose comme ça. Ça avait tout solidifié tout le monde.
C'est tellement important, le team building, comme on appelle, là, solidifier l'esprit d'équipe. Incroyable. Écoute, merci pour cette anecdote-là avec Eric. Je n'avais pas pensé parler d'Eric de cette façon-là. Puis je vais lui envoyer cet extrait-là de ce bout-là du podcast. Là, je suis convaincu qu'on se parle des fois encore par Facebook parce qu'il est quand même assez loin du Québec. Là, mais on a encore des discussions. Puis il est tellement généreux, cet homme-là. Moi, ça m'a fasciné de recevoir parce que c'est mon idole de jeunesse. Là, j'ai quand même, je suis né en 92. Fait que 2002-2003, c'était dans mes années que c'est ça qui a fait que je suis devenu lanceur, en fait. Là, d'avoir un gars comme lui de Mascouche. Moi, j'habitais à Terrebonne à côté. On dirait que c'était tellement le modèle parfait. Puis de le recevoir au podcast après ça, de jaser, il m'a donné 4h30 au total, 2 podcasts. puis il m'écrivait après pendant la série mondiale. Puis, buddy, qu'est-ce que tu as pensé de la série mondiale? Mes prédictions pour l'année prochaine. Es-tu sérieux, lui-là? Là, il habite à Los Angeles. Il y a 2-3 maisons partout en Arizona. Puis il prend le temps de m'écrire. Je suis qui? Je suis un gars bien ordinaire dans son sous-sol. À quel point que le gars, il est généreux. Puis pour moi, ça m'a fait mal, là, le fameux rapport Mitchell, comme beaucoup d'autres Québécois, quand c'est arrivé. Puis son passage avec les Capitales m'a permis de faire la paix un peu avec ce côté-là que je lui en ai voulu un peu sur le coup, de dire « Ah, c'est décevant quand ton idole est moins parfait que tu pensais. » Puis là, de le voir à quel point que c'est impliqué à redonner au Québec, à redonner de ses connaissances aux joueurs des Capitales, aux jeunes, sa générosité par la suite, avec B45 plus tard et ce qu'il a fait à mon podcast. Pour moi, il a juste augmenté dans mon estime. Puis,
en tout cas, ça a été toute une année.
j'imagine que oui. Écoute, là, je vois l'heure qui file. Puis comme je te dis, ça va vite quand tu as un parcours intéressant. Puis je veux vraiment maximiser le temps qu'on a ensemble. j'ai pas parlé de Bob, j'ai pas parlé de ton parcours chez B45. Encore, puis je veux qu'on parle du dôme. Est-ce que tu me donnes l'occasion d'en parler?
absolument. Super. On peut commencer par Bob parce que la question, c'est comment on s'est connu, puis tout ça, c'est que.
C'était ma question.
oui, exactement. Puis Bob a été. Bob, dans le fond, venait de terminer son hockey professionnel. Il jouait encore semi-pro à ce moment-là. Et il a appliqué pour commencer à travailler pour les Capitals. C'est Ed Sweeney qui travaille au niveau du marketing ici, qui a dit, ah, je viens de trouver un bon jeune, là, il est dynamique au bout, tu vas voir, il a de la gueule.
Il y a de la gueule, oui.
La rencontre que j'ai eue avec Bob, c'est bonjour, monsieur Laplante. Puis Bob, il avait étudié en marketing tout ça, puis je l'avais effectivement trouvé dynamique. Puis il dit, écoute, je ne demanderai pas beaucoup de journées de congé, mais je sais que c'est plate, là, je commence à travailler, mais en fin de semaine, c'est la Coupe Allen, je pense que c'était dans l'Ouest canadien. Puis il dit, je dois aller ça, puis je vais de retour lundi, puis après ça, je vais être à mon poste, tout ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis il y avait des idées, trop d'idées. Moi, j'étais le.
C'est ça.
Ouais, on s'est connus au départ où j'étais pas l'ami, j'étais le boss qui disait non, on veut pas faire ça, ça c'est l'image des capitales, puis on touche pas. Puis je pense qu'il me trouvait têteux parce que c'était comme écoute, pourquoi pas? Puis c'est Bob, il.
Visionnaire.
Arrivé de la terrasse puis de toutes ces affaires-là, si on y avait dit oui à tout, ça, je pense que le feu aurait pogné dans le stade à un moment donné. Mais c'est comme ça que ça a été. Puis à ce moment-là, Bob joue un peu de musique, mais pas. Il n'a jamais disqué, il n'a jamais rien fait de ça. Puis,
on parle de quelle année, juste pour se situer à peu près?
On est autour de 2005-2006, les premières années, comme ça. Fait qu'il a fait, je crois, c'est peut-être autour de 2 ans avec les Capitales. Puis après ça, il est venu travailler chez B45, donc représentant des ventes chez B45.
Oui.
Là, ça touche encore plus directement ce dans quoi il avait gradué, vraiment le marketing puis tout ça. Et il m'a annoncé en mars, avril, je crois qu'on est rendu possiblement en 2007-2008. Écoute, Michel, j'ai une opportunité. Je pense qu'il avait rencontré Max Talbot.
Ouais, son parler de la Coupe Stanley.
Ouais, exactement. Puis là, il a dit je veux faire un disque, puis je veux me lancer là-dedans. Puis il se sentait mal parce que là, on avait des projets chez B45 puis tout ça. Puis il dit Bob, c'est de ça que tu veux vivre, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Puis il dit t'es sérieux? Il dit voyons donc, je ferais la même chose toute l'équipe. Fait que vas-y, mon chum, puis ce que tu fais est bon, puis toute l'équipe, puis on verra. Puis si jamais ça marche pas, tu reviendras. Et finalement, ça a fait.
Il n'est jamais revenu.
Il a travaillé pour, tu sais.
Ben oui.
Mais on l'encourageait, puis on tripait, puis on est toujours resté amis parce qu'on a tellement joué souvent à partir de là au hockey ensemble, après ça au roller, puis lui, Alex Giroux, puis Steve Gévidon, c'est des capotés. Et puis un coup que tu connais ces individus-là, comment c'est authentique, intense, right, tu peux pas faire autrement que d'apprécier tout ça. Fait que c'est ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi. Et malgré le fait que Bob était plus à l'écart, soit de B45, des capitales, il l'était pas vraiment. Il était toujours en train de dire qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'on se fait, tout ça. Et à partir, je pense que c'est à partir possiblement de 2011, c'est là que c'est devenu les Mardis Bob. Donc, sur la terrasse au Capital, c'était Bob avec son Ben tout le temps. Et il y avait une belle façon, là, de le marketer, là, tu sais, là, de faire la promotion de tout ça. Et c'est devenu un incontournable, les soirées à Bob le mardi, c'est incroyable.
Ah, j'aurais tellement aimé vivre ça, c'est fou. Là. J'ai jamais eu la chance d'assister à ces moments-là. J'ai découvert Bob, moi, en 2013, puis c'est arrivé que, tu sais, tu dis tout le temps, ce qu'on fera plus, je pense, après la pandémie, remettre à plus tard, là, si tout le temps on regarde, l'année prochaine, j'aurai plus de temps, je travaille comme un fou cet été, écoute, moi, j'étais quand même à 3h30 de Québec, là, fait que, tu sais, c'était pas facile de se rendre là en claquant des doigts, fait que j'allais aux Aigles à Trois-Rivières, c'est comme, bon, là, j'ai le temps, j'ai une petite 1h30 de lousse, je vais me rendre à Trois-Rivières, puis, mais Bob, j'avais jamais réussi à le voir en show, puis c'est le plus... Un des plus gros regrets que j'ai dans ma vie parce que j'avais mes billets pour ses. J'avais acheté en fait des billets pour son show le 25 septembre, je pense, 2016. Fait que tu comprends que j'ai pas réussi à le voir en show à Montréal parce qu'il
avait
au club Soda, tu sais. Fait que, ah, Caroline, que je remets plus les choses à demain. Là.
Non, ben c'est ça. Puis, ça a été des moments incroyables, surtout la terrasse. Les débats qu'on a eus suite à. Ce qu'on faisait avec les capitales au niveau des promotions, tout ça. Puis je pense que c'est je suis pas sûr là, des dates, là, mais je pense que c'est en 2015 que là Jean Tremblay a offert à Bob une partie de l'équipe. Et, et Bob, il en chétait quasiment. Là. C'est, je veux dire, pour lui, c'était comme hey, je vais posséder une partie d'une équipe de baseball professionnelle. Il capotait. Puis moi, je trouvais ça le fun parce que ça allait être Bob qu'on allait travailler, mais en tout cas, je suis assez tête de mule pareil, puis j'ai mes idées, mais j'aime avoir quelqu'un qui te défie constamment, puis qui te dit, écoute, pourquoi qu'on ferait pas ça de telle, telle, telle façon? Mais tu sais, on a eu des soirées qui sont là, ben, je te parle, puis on voit la,
Ben, c'est ça, j'allais te demander. C'est pas Bob qui est sur le côté. Ben, dans ma gauche à moi, ta droite à toi. Là, mais...
Bob, Bobby Barry, moi, puis Mark Gershon, qui est sa photo aussi. Ça, c'est la soirée cubaine.
Avec, donc, un cigare.
Ouais, c'était il est pas mal tard ce soir-là. Il reste juste nous autres dans le stade. Et Bob avait fait un spectacle ce soir-là. Après ça, on avait joué contre l'équipe Cuba. Marc était l'animateur des matchs à RDS. Et on s'est retrouvé une petite gang à la fin du match. Tout ça. Mais ça a été des moments comme ça qui étaient comme extraordinaires. Mais Bob, on virait tout ça. Mais tu sais, un petit verre de whisky avec un cigare cubain qu'on s'était fait offrir en fin de soirée comme ça, c'était comme parfait. On avait des beaux projets parce que arrive la suite de 2015-2016. Plein de projets qu'on voulait faire, dont un projet sur lequel j'étais, moi, c'était celui du Dôme, du synthétique. Et tout se bousculait. Là, on est rendu en juin 2016. Où est-ce que ça se bouscule, puis j'ai pas le temps de voir Bob puis d'y expliquer c'est quoi le projet, puis j'ai dit qu'à un moment donné, on va le faire, puis toute l'équipe. Et on est le 3 septembre à la Broche à Foin, le 2 septembre à la Broche à Foin, et qui était l'endroit à Marie puis à Bob, là, où est-ce que c'est. Si vous avez la chance un jour d'aller faire un contact avec votre gang de bureau d'amis, n'importe quoi.
Marie-Pierre, mais là... Le vent en long et en large, c'est la place à Scott, je pense, dans le coin de la place. C'est la place à faire la party là, au Québec.
Exactement. C'est la place, moi, tu vois, c'est mon endroit de préféré parfait avec la terrasse des Capitales.
Ben oui, les deux.
Et évidemment que ce soir-là, Bob il me dit comment ça va le projet, tout ça, puis là, il y a la musique, toute l'équipe. J'ai dit, écoute, on s'en parle en fin de semaine. Il dit, je peux pas. Il dit, je prends justement l'hélicoptère demain pour m'en aller à un mariage à Caraquette. Ben, il dit, tu fais quoi? Puis là, on est un peu chaud, là, tu sais. Il dit, tu fais quoi? Il dit, pourquoi tu viens pas avec moi? Fait que je dis, je vais y aller. Fait que là, il me croit pas parce qu'il dit, là, non, t'as ta famille, tes enfants, tu peux pas partir. J'ai dit, non, ma gang est à Montréal, de toute façon. Fait que j'ai dit, moi, j'ai rien à faire en fin de semaine, je vais aller avec toi, puis je vais t'expliquer le projet, parce que Bob, tu vas capoter, puis je t'explique le projet. C'est quoi ton projet? Ben, j'ai dit, garde, je te l'explique demain, quand on atterrit à Caraquette, le mariage est quand? Fait qu'il dit, le mariage est seulement en soirée, fait que je t'expliquerai c'est quoi le projet. Fait que je pense qu'il a oublié que j'allais être là, mais le lendemain, à 9h du matin, ben, j'étais à l'hélicoptère, puis j'arrive là, puis il dit, tu viens, t'es sérieux? Ben, j'ai dit, oui, je suis sérieux. Fait qu'on est partis ensemble à Caraquette. Et comme des fêtes, on est allé dans un restaurant sur le bord de la mer. J'avais mes documents, puis j'ai expliqué c'était quoi le synthétique, le dôme, qu'est-ce qu'on allait faire avec ça.
Ah, au moins, tu as eu le temps de parler.
Ouais, qu'on avait rencontré M. Labombe qui avait l'accord là-dessus, que les gens de synthétique étaient d'accord. Puis là, j'explique tout le projet. Mais puis, ça va être la fun, ça va être capoté. Puis il dit, je veux faire le premier spectacle sur ce terrain-là, quand on va pouvoir, puis toute l'équipe. Et le soir, on a eu une soirée incroyable dans un mariage. Et le lendemain matin, on est allé en bateau parce qu'il y avait des gens de la place dans le mariage qui nous avaient dit qu'ils faisaient la pêche en haute mer, tout ça. Fait que on est parti avec eux autres vers 9h, 10h le lendemain matin à la pêche avec les parents du côté de ça. Puis c'était une journée qui était magnifique, puis tout ça. Et c'est ça, on est embarqué sur l'heure du midi dans l'hélicoptère. Puis ce qui est spécial de la vie, pareil, c'est que tu sais, on est toujours en train de se dire « Ah oui, demain on va faire telle affaire, puis après-demain on va faire telle chose. » Puis tu le vois pas venir du tout. Tu sais, t'es dans les 3-4 prochains jours, puis je vais te montrer les plans de l'autre affaire, puis après ça, il faut qu'on rencontre, puis n'oublie pas, le roller recommence, puis notre hockey du lundi matin, puis toute l'équipe. Et c'est encore un choc, parce que dans le cas autant des deux autres que moi, j'étais assis en arrière, je suis tassé un petit peu, je m'endors, et quand je me réveille, je suis dans une rivière. Donc, puis j'entends de l'eau couler, parce que mes yeux sont comme fermés, tout ça, puis là, toute cette tragédie-là est arrivée dans les heures qui ont suivi, ou dans les minutes qui ont suivi, donc t'es dans l'ambulance, puis là, il est où Bob, puis il est où Fred, puis qu'est-ce qui se passe tout de suite avant que ça clique dans ta tête, parce que tu viens d'être assommé aussi, là, j'ai peut-être été assommé quelques minutes. Fait que là, c'est là que tu fais le tour. Après ça, tu vois la vie différemment aussi. Je dois dire que, tu sais, c'est comme, tu réalises que tout peut arrêter de Cousec. Fait que ça a été vraiment des bouts qui ont été difficiles. Puis suite aux bouts difficiles, après ça a été des réflexions différentes qui passent un privilège d'avoir connu cet individu-là qui est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire, vraiment, vraiment spécial dans l'approche qu'il avait. Fait que c'est un petit peu de tout ça. Fait que tu te rappelles que le gars croquait à pleines dents dans tout ce qu'il faisait. Fait que tu te rappelles qu'il faut faire ça tout le temps. C'était l'occasion de dire à quelqu'un que tu l'aimes, ben tu y dis. Et c'était l'occasion de vivre quelque chose de le fun, ben tu le fais. Puis tu passes pas. Fait que c'est à travers ce genre de ce gamme d'émotions-là que je pense que tout le monde qui l'ont bien connu ont passé à travers dans les jours, les semaines qui ont suivi.
Ben, merci tellement de nous partager cette histoire-là, un peu, je trouve ça touchant, je trouve ça émotif. Je trouve que tu en parles avec une façon, une belle façon de voir les choses. Je pense que quand tu as vécu ce que quelqu'un comme toi a vécu, de traverser tout ça puis de voir la vie d'une autre façon, c'est la moindre des choses par la suite. De te compter chanceux d'avoir connu quelqu'un comme Bob, qui, comme tu dis, qui mordait dans la vie, qui nous apprend aujourd'hui à. Sincèrement, c'est une des choses que j'ai le plus appris de lui. Le podcast n'existerait pas si c'était pas de Bob, sincèrement. Non, mais pour vrai, c'est vraiment vrai. Je garde tout le temps, depuis que j'ai connu le parcours à Bob, que j'ai tout eu ses CD. Je l'ai jamais vu en show, mais j'étais là au stade pour son lancement pour son lancement de son DVD, dans le fond, là, du film, là, avec 7500 bonnes personnes dans le stade qui étaient heureux, sans savoir que c'était peut-être un des derniers rassemblements qu'on vivait. Mais ça a été vraiment un moment incroyable. Puis, tu sais, après ce moment-là, je me suis dit, quand je suis revenu du stade à Québec, j'ai dit, c'est fou ce que ce gars-là a vécu, voir tous les témoignages des gens, voir à quel point il avait marqué les gens et qu'il a prouvé que peu importe ce que tu voulais faire dans la vie, que tu pouvais le faire, qu'il n'y a rien que tu ne pouvais pas faire de chez vous, homemade, qu'il n'y a personne qui croit en toi, qu'il n'y a pas, tu sais, il y a pas un parcours de chanteur vraiment, c'est atypique là, son parcours, là. C'est complètement différent des autres. Là, moi, je me suis dit, je veux faire un podcast. Mais j'avais un peu peur, tu sais, j'étais conférencier, je faisais des conférences devant plusieurs personnes, puis ça me faisait pas peur. Mais de savoir que peut-être des milliers de personnes peuvent tomber là-dessus sur Internet, ça me faisait peur, je sais pas pourquoi. De recevoir, de faire des entrevues, je n'avais jamais fait de ma vie, je suis pas un gars de télé, je suis pas un gars de, tu sais, j'étais un photographe sportif professionnel, c'est ça mon métier, tu sais, c'est moi, je tripe sur le sport, je veux recevoir des gens, je veux parler avec eux, mais je veux juste garder le contact que j'ai un peu comme avec mon public pendant mes conférences, puis avec la pandémie, c'était plus possible, fait que là, je me suis comme dit, qu'est-ce que Bob ferait? Ben, Bob, lui, il ferait, regarde, on le fait. Go, on le fait. Il n'y a pas de stress. C'est fou comme projet. Tout le monde dit, ah, c'est fou. Mais moi, je ne veux pas me contenter de recevoir, j'ai rien contre le propriétaire des Cardinaux, mais je ne veux pas me contenter de recevoir le propriétaire des Cardinaux. Je veux recevoir mon idole, Éric Gagné. Je veux recevoir Steve Bégin, Bruno Gervais. Il n'y a pas de limite. T'sais, je veux recevoir tous les invités qui me tentent. J'écris à n'importe que ce soit n'importe qui a un lien avec un parcours inspirant du Québec. Donc, toi, je vais y écrire, on ne sait jamais. Puis même quand j'hésitais à t'écrire, parce que connaissant un peu ton histoire, connaissant le lien que tu avais avec Bob, je me suis dit, tu es la meilleure personne pour en parler. Mais, tu sais, sur le coup, j'étais, est-ce qu'il va être à l'aise? Est-ce qu'il va dire, c'est qui ce gars-là? Je ne le connais pas.
Ben, okay. Ben, tu parles de Bruno puis Max, puis toute cette gang-là. c'est vraiment des
bons Jack.
Une gang, vraiment le fun à côté. On a eu beaucoup, beaucoup de fun ensemble.
Mais j'en doute vraiment, pas.
On continue de se voir puis d'en avoir. Mais
ouais, on s'ennuie de ça.
C'est des bons Jack, ouais.
Hey, tellement. Écoute, c'est vraiment, vraiment super intéressant comme histoire. Si je te parle de ta meilleure anecdote que tu as avec Bob dans toute ta vie que tu l'as connu, là, c'est quoi vraiment le meilleur souvenir qui te vient en tête? Si t'as un à choisir, rien qu'un, là. Tu peux m'en nommer deux au pire.
Ah non, écoute, j'en ai tellement. Ben, en fait, ce que juste vous dire, le gars, comment il est, là, l'été qu'on l'engage, puis qu'il me dit qu'il était à Coupe Allen, dans le tournoi de la Coupe Allen, il s'est battu, mais pas sur la glace, dans les estrades. Il est arrivé un incident, je pense que c'est Bobby Barry qui coachait, puis qui a reçu quelque chose par la tête de Boba, puis Bob qui défendait tout le monde, il montait dans les estrades, puis il s'est battu, mais avec ses patins.
Avec ses patins dans les estrades.
Avec ses patins dans les estrades. Et imaginez que tout l'été, il pense que parce que je suis un joueur de baseball, je ne sais pas jouer au hockey, puis moi, je l'écarte, puis je dis, t'es un goon, t'es pas un joueur de hockey. Fait que La première fois qu'il rechausse les patins à l'automne, c'est nous deux ensemble sur la glace. Et là, ça fait 2-3 mois qu'on s'écarte là-dessus. Là, qui va savoir jouer au hockey, tout ça. Et Bob fait juste tomber. Il est vraiment pas bon. Ce gars-là n'a jamais joué au hockey de sa vie. Et c'est parce qu'il n'avait jamais touché à ses patins.
Oh non.
Depuis son combat à Coupe Allen.
Fait oh non, fait que c'est l'âme de
Bette. Il s'approche de hockey. C'est ça, il s'approche de hockey, il s'habille. Puis il saute sa glace et ses patins sont finis. Je veux dire, les lames de ses patins sont carrément finies. Et il tombe partout, puis orgueilleux comme qui est. Il raconte pas toute l'anecdote et après ça, on va déjeuner ensemble. Puis on apprend que finalement, ses patins étaient toutes. Fait que c'est sûr qu'il s'est rattrapé. Puis Bob était quand même un bon joueur d'hockey, mais il y avait des coches partout, ses patins. Fait qu'il arrivait des incidents comme ça, mais il y en a tellement eu que. Je ne saurais même pas par quoi commencer. Je pense qu'on pourrait faire une émission juste là-dessus. Là.
Ben oui.
Il y en a eu beaucoup.
Ouais. Ouais, j'en doute pas une seconde. Écoute, c'est incroyable. Je veux juste terminer le chapitre. J'ai du poil carvel. J'ai un chat à côté de moi, comme vous pouvez le voir. J'ai des mottes de poil carvel partout. Oui, dans le fond, juste terminer le chapitre. Toi, par la suite, là, c'est arrivé le 4 septembre, l'accident. Le 8 septembre, tu rencontrais des gens pour ton projet de Dome. Je pense que c'était à Toronto, si j'ai une bonne mémoire de ce que j'ai lu. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pris le temps pour toi de te remettre de toutes ces émotions-là? C'est quand même une très grosse blessure physique et morale que tu as vécue. Pourquoi vouloir retomber tout de suite dans le bain puis recommencer tes activités?
Ben, en fait, le projet, le mardi, on veut débloquer le projet, rencontre M. Labonde. Le jeudi, les ingénieurs, je parle aux ingénieurs qui fabriquent le dôme, les gens de Toronto, les gens de Montréal aussi qui vont travailler sur le plan synthétique, tout ça. Puis je demande d'avoir une réunion le mercredi prochain avec tous les ingénieurs, ceux de la Ville de Québec, ceux de Montréal, ceux de Toronto. Ça l'impliquait que les gens de Toronto avaient pris un vol d'avion puis c'est emmené tout ça. Puis l'accident arrive le dimanche. Là, passe, je me souviens encore, le lundi dans la nuit, je me promène avec, pas sur le sérum, là, mais sur, en tout cas,
ouais,
sur,
poteau, sur, là.
Ouais, c'est ça. Les patentes, t'es plugué un peu partout, mais je comprends pas c'est quoi les systèmes qui sont plugués sur moi parce que je fais des exercices toute la nuit, puis je me promène dans l'hôpital, puis là, je fais des fentes, puis je fais des... Je marche sur les talons, sur le bout des pieds, puis je veux voir si mes genoux fonctionnent encore, puis tout le kit. Et je crois beaucoup à ça dans mes croyances à moi qu'il faut absolument que le sang circule puis que je bouge le plus possible. Fait que, là, qu'est-ce que tu fais là? Il faudrait que tu restes couché. Non, je crois pas à ça. Je crois que le sang, il faut qu'il circule le plus vite possible, tout ça. Et c'est ça. Fait que le mardi après-midi, je demande un peu des nouvelles de comment ça se passe à Québec, puis qu'est-ce qui se passe avec tout le projet, puis Jean-Philippe Roy fait juste me dire, Michel, je peux-tu prendre juste 2 minutes avec toi? Je veux savoir qu'est-ce que je dois dire aux ingénieurs. Puis j'ai dit, c'est quoi les ingénieurs? Ben, il dit, t'as callé un meeting demain, mercredi, avec les ingénieurs, puis arrive, puis il dit, c'est quoi ton plan? Qu'est-ce que je lui dis, toute l'équipe? Fait que j'ai raccroché, puis là, j'ai dit, il faut que je sois là, puis de toute façon, j'ai quoi à faire ici? Les pointures, on les enlèvera une fois que je serai à Québec et tout ça. Donc, c'était pas, puis je suis pas mal en poids, puis j'ai demandé au médecin, j'ai dit, est-ce que je peux sortir? Ben, il dit, pas très que tu signes un document, si tu veux vraiment sortir, tout ça. Fait que c'est ce qu'on a fait. Et qu'on est sorti les prochaines heures, c'est en aller, participer à cette réunion-là. Puis après ça, je me suis allé chez nous, puis pour moi, c'était super important que je reste pas seul dans une chambre d'hôpital pendant un mois de temps ou 10 jours de temps, puis toute l'équipe. Je voulais être avec mes enfants, être avec ma famille, de bouger le plus possible. Fait que, J'ai dans ma perception des choses, j'ai jamais voulu arrêter de bouger. On m'avait dit pour les 2-3 prochains mois, il faudrait que tu sois plus prudent au niveau de ton dos, de tes genoux. J'ai fait tout le contraire.
T'avais rien?
J'avais aucune fracture. J'avais des bleus partout. J'avais beaucoup. Ouais. J'avais peut-être une centaine de pointures au moins sur la corde, mais ça faisait pas nécessairement mal. Mais pour moi, c'était super important que le corps bouge tout de suite. Fait que à tous les jours, j'allais marcher. Puis là, je faisais des montées de genoux, des longs espaces. Je faisais des rotations au niveau du tronc, puis tout le kit le plus possible. Puis je me disais, c'est plate parce que je me disais, il faudra plus jamais que j'arrête de bouger si je veux garder Si je veux pas que la roue il pogne dans le corps. C'est toujours ça que je dis, puis ça fait rire les médecins et tout ça, mais je veux pas que la roue il pogne. Puis après, il me regarde et il dit, écoute, t'as pas tort, ça marche ton affaire, fait que
Vas-y.
continue, faudrait pas que tu arrêtes. Et là, malheureusement, dans la pandémie, je vais au hockey 3-4 fois puis cette semaine, tout ça, puis là, dans la pandémie, j'ai arrêté. Et ça m'a pas fait de bien. Là, j'ai pas. J'ai été très actif, comme je joue au tennis, je joue au hockey tout le temps, je bouge constamment, puis aussitôt que j'arrête 2-3 jours, après ça, je descends les marches d'escalier, ça fait mal, là, je les monte, tout ça, puis c'est pas mal épouvantable, mais les pentures, ils font un peu de bruit.
Dû à l'accident ou juste...
Ouais, suite à l'accident, exactement, suite à l'accident, fait que là, c'est ça, dans la dernière année, j'ai arrêté de jouer au hockey, fait qu'il faut que je me concentre à dire, bon, ben, va faire du vélo, va faire du jogging, des choses comme ça que je trouve moins une fun, évidemment.
Enfin, quelqu'un qui me comprend, ma blonde. T'aimes pas ça, prendre des marches? Je suis plus capable du mot marche. Je suis en train de faire des questions. Imaginez que je prends une marche. Je comprends.
Et je le fais quand même et je réalise que finalement, la théorie de bouger constamment était bonne parce que j'ai diminué. Puis là, le corps, la roue, il a poigné un peu dedans, malheureusement.
Tellement.
Faut tout que je redécape ça dans les prochaines semaines.
Ça va revenir dans les prochains temps. Tu me fais penser vite, vite. Tu en as parlé rapidement, là, mais tu étais dans le 2 septembre que tu disais, je pense, dans le fameux party à broche à foin. Est-ce que Bob avait eu le temps de faire un dernier bout? Je pense qu'il préparait un nouvel album. Est-ce qu'il avait eu le temps de vous jouer quelques tunes ou peut-être au Nouveau-Brunswick? Je ne sais pas si tu en avais entendu quelques-unes.
Oh, oui, au Nouveau-Brunswick, il avait amené sa petite guitare. Puis le matin, justement, le dimanche matin, il m'a joué ses deux nouvelles tunes.
Ah, wow.
Sur chose. Fait que c'était... Ouais, c'était cool.
Ça rappelle ça un peu.
Ça reste ici, ouais.
As-tu quelques souvenirs de cette tune-là? C'était par rapport à quoi exactement? Ou
oui, il y avait une chanson sur les cabanes à sucre et une chanson sur les belles-mères.
Oh, fait que, OK.
Je me souviens pas de toutes les paroles. Puis il y a des fois aussi que Bob disait des choses dans les tunes, puis une fois qu'il enregistrait, il en enlevait un peu pour pas être trop poursuivi.
Ouais, ouais. C'était explicite.
C'était très, très bon et très drôle. Ben, moi, je suis fan. Fait que,
c'était tout le temps bon. Ouais. Ah, Marc-Pierre me disait qu'il en avait fait une aussi, je pense que c'était un matin qu'elle s'était réveillée à broche à foin, qu'il avait fait sur les cheerleaders des Marlins de Miami. c'est le genre de ton à Bob un peu, puis ça m'a fait bien rire. Ouais. Cabane à sucre, comme on avait parlé, les belles-mères, non, je n'avais jamais entendu parler. Mais wow, ça doit être spécial. Il n'y a personne qui a filmé ça, c'est ça qui m'étonne. Il n'y avait personne dans vous qui était présent, qui avait eu le réflexe de sortir.
Ouais, moi j'étais tout seul avec, on était sur le bord de l'eau juste avant d'embarquer dans l'hélicoptère. Donc c'est peut-être là une heure avant que l'accident arrive. Là, donc c'est ça. Puis j'ai pas de tendance à. Je suis pas quelqu'un qui prend des photos, qui filme jamais puis tout ça.
C'est weird avec un ami, t'es tout seul, là.
Ouais. C'est ça, exactement.
Pas ça naturellement, là. C'est... Ah non, je pense qu'il y avait d'autres mondes pour ça. Ouais. Fait que t'as eu ce moment privilégié-là, ben. C'est comme Marie-Pierre m'avait dit, tu sais, pour clore le sujet, je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus, là, mais elle dit il y avait comme quelque chose de spécial, pas qu'il pouvait prédire qu'il sentait sa mort ou quoi que ce soit, mais c'est comme s'il avait eu à le prédire, ça aurait été fait de cette façon-là, pas la façon que c'est arrivé, mais les jours qui ont précédé. Elle dit, tu sais, le fameux matin qui était à broche à foin, qui se sont réveillés, elle dit, tout le staff, on était avec un petit verre de je ne sais pas trop quoi, puis elle dit, le matin, en se réveillant, on dégrise un peu de la soirée d'avant, puis il y avait eu un party, elle dit, tous ses amis étaient là, probablement toi, t'es là, tu sais, puis elle dit, c'était comme si c'était son dernier party de vie, ça aurait été ça, bien, tous les gens qui aimaient le plus étaient présents, tu sais, le lendemain, regarde, il était avec toi, il a eu le temps de jouer sa dernière tune qui voulait te montrer, tu sais, puis il a eu le temps d'écouter ton projet. C'est comme si tout s'est fait de la bonne façon juste avant. C'est comme bizarre.
Bref, hein, non, on regarde ça, là, il a été avec toute sa gang. Puis tu sais, il y a des gens qui m'ont demandé, des gens proches de Bob, il était comment dans les dernières heures, puis tout le kit, là. Il ne peut pas être plus heureux. Moi, je l'avais pas vu serein même depuis un bout. Parce que Bob, Bob, par son intensité, là, il y a des choses qui le fatiguaient, puis il le fatiguait en tabarnouche. Je le comprends, je suis un petit peu comme ça. Moi, quand il y a des choses qui font pas mon affaire, ça me perturbe, puis ça reste. Puis, tu sais, ça part pas facilement, puis ça reste collé, puis tout le kit. Et Bob, là, il était très rigoureux, travaillant, puis il avait ses convictions, puis tout ça. Fait que quand les gens avançaient pas à son rythme, ben, ça le faisait, excusez l'expression, mais ça le faisait chier, puis ça le dérangeait, puis tout ça. Ouais. Il était comme si je le comprends. Là, il était dans un bout, là, où ce que, effectivement, que le jeudi soir, il voit sa gang, le vendredi soir, il voit sa gang, le samedi, il est dans un mariage où il voit des gens, puis c'est une soirée qui est magnifique. C'est son chum qui se marie, puis tout le monde est le fun. Puis le lendemain, ben il vit de quoi de le fun, puis il parle des prochains jours qui s'en viennent, jusqu'à hâte de telle, telle chose, de faire telle, telle affaire. Fait que, honnêtement, je suis pas prêt à dire que Bob savait ce qui s'en venait, parce
que
on tombe dans l'au-delà, puis tout ça. Mm-hmm. Mais il a eu la chance. C'est pour ça que à un moment donné, les blessures que tu as de tout ça, là, les premiers jours, ben, t'es triste, puis tout ça, puis les semaines qui suivent ici. Mais au moins, tu regardes ce bout-là, puis tu dis, tabarouette, il y a eu le privilège de voir ces gens-là. On a eu le privilège de le voir aussi avant. Fait que tout ça te réconcilie quand même un peu avec, avec le mal que ça fait. Ça vient quand même réparer un peu en sachant que il y a quand même des belles choses qui sont arrivées à travers tout ça.
Mais tellement, comme tu dis, on peut pas, je pense pas non plus qu'il l'avait deviné ou quoi que ce soit, mais c'est comme si inconsciemment, tu sais, j'ai un ami proche de moi aussi qui est décédé à 22 ans, puis une couple d'années, puis quelques temps avant, c'est un peu la même chose, il a vécu des parties avec tout le monde, il s'est réconcilié avec tout le monde, bon, tu sais, pas qu'il y avait plein de chicanes, mais tu sais, il y avait des petites affaires qui étaient arrivées, puis là, tu te dis, pourquoi il a fait ça tout un peu avant, dans les journées qui ont suivi, il pouvait pas le prédire, tu sais, c'est un anévrisme, ça arrive à n'importe qui, ça monte au cerveau de même, tu sais, puis qu'est-ce qu'il a fait qui s'est réconcilié juste avant, ben, on ne sait pas, personne ne le sait, mais tout ce que je sais, c'est que si c'est s'il avait à choisir comment ça avait arrivé dans les jours avant, ben ça aurait tout arrêté comme ça. Ça a tout déboulé de la bonne façon.
Mais ça nous permet des fois de croire à quelque chose qui devient cool, de penser que il y a peut-être un petit quelque chose, fait que ça, les moments les plus durs dans la vie, ça te réconcilie.
De ton côté à toi, est-ce que y a-tu quelque chose de un côté de toi qui est plus croyant aujourd'hui, vu la chance que tu as eue? T'es un miraculé, qu'on le veuille ou non. Là. Y a-tu un côté de toi qui dit hey, y a quelqu'un quelque part qui m'a protégé là-dedans? Là?
Ouais, ben des fois oui, des fois puis des fois j'apprécie de pouvoir voir grandir là, les enfants tout ça, puis de dire bon, le 4 septembre ça aurait pu être la fin et tout ça. Par contre le côté que certaines personnes qui survivent à un accident disent ah ben là je veux tout faire, tout vivre tout de suite parce que je faut pas que je manque rien, ça m'est pas arrivé.
Ah non.
Non, j'avais un bide de vie je pense qui était bon, qui était solide dans le sens que tu sais, j'avais un certain équilibre tout ça, puis je veux juste maintenir ça. Et j'ai jamais été dans le mood de dire je dois profiter de la vie, que je sens pas que je dois en profiter. Je pense que j'en dois une un peu à la vie parce que j'ai cette chance-là, ce privilège-là de pouvoir voir spécialement ma famille et mes amis continuer de grandir. Donc je le vois pas comme si je pouvais en faire un abus puis de dire ah ben à partir d'aujourd'hui, je mets tout sur la carte de crédit, fuck, il faut que je vive, c'est pas ça du tout. C'est pas comme ça que je me sens, c'est au contraire, c'est un privilège. Puis il y a un petit côté qui dit, abuse-en pas. T'as eu un coup de chance, là, abuse-en pas, puis sois reconnaissant. Fait que je pense que c'est plus comme ça que je le vois.
C'est tellement bon de la façon dont tu le vois, parce que j'avais jamais eu la chance de parler à quelqu'un qui est passé aussi proche que toi. Là, il y a certaines personnes dans mon entourage que je connais qui ont traversé des cancers, des affaires comme ça, puis tu disais, hey, ça aurait pu être toi. Comme, mais d'avoir vécu aussi proche que ça, tu dis, je me demandais, je veux pas trop en parler, mais je me disais, il y a peut-être un côté de toi qu'après ça, il se sent un peu, pas imposteur, mais dire, pourquoi moi? Pourquoi ça n'a pas été lui qui est resté? Pourquoi pas, mettons, Bob est resté, mais pas moi? Il doit y avoir des pourquoi qui te viennent beaucoup en tête après, puis que tu réussis pas à répondre, j'imagine. Là, ça doit être frustrant un peu aussi à un certain point.
Ouais, ben c'est quelque chose qui peut habiter quelqu'un, le syndrome de l'imposteur, puis tout ça. Je ne l'ai pas vécu. On m'avait dit, j'ai reçu des livres de psychiatres, de psychologues qui m'ont un peu décrit comment j'allais me sentir dans les 3-4 prochaines années. Et c'est 0-5. C'est du tout que je vis.
Wow.
Je vis pas ce genre de côté imposteur-là. Je vis pas je vis pas ça, mais pas proche. Ça m'a même pas perturbé l'idée. Je vois pas la vie de toute façon de cet angle-là. C'est pas comme ça que moi je perçois les choses.
C'est motivant.
Je suis là. Est-ce que je suis capable de redonner? Est-ce que je suis capable de prendre soin de tout ça? C'est plus comme ça que je le vois. Puis de commencer à dire ouais, mais dans le fond, j'aurais-tu dû être assis là, c'est lui qui aurait dû faire ça, puis faire telle affaire. Je vois pas les choses de cette façon-là. Donc je dis pas que ça peut pas m'atteindre, puis qu'est-ce qui dit qu'un jour je les verrai pas de cette façon-là? Mais aujourd'hui, puis depuis 5 ans, c'est pas comme ça que je perçois la vie de toute façon. Fait que c'est pas quelque chose qui qui m'agrippe, tu sais, c'est toutes ces théories-là. Là.
Tu fais bien, puis écoute, garde ta mentalité, c'est inspirant, tu me donnes la chair de poule d'imaginer à quel point que tu peux voir la vie d'une si belle façon, puis pour vrai, je change surtout pas ça, c'est vraiment, je pense que c'est la bonne façon de le voir. Je close le chapitre Bob, après ça, il me reste un petit chapitre quand même assez important à te parler, qui est B45, puis après ça, je devrais être capable de te laisser filer. Le chapitre Bob, je vais conclure d'une belle façon, un très, très beau duo qu'il y a eu en terminant sa vie, veux pas, avec ta fille, Liane, qui est le roi de la glace, que j'ai écouté à maintes reprises depuis que le documentaire est sorti, parce que c'était la conclusion, dans le fond, du documentaire, c'était la chanson du générique, et puis disponible sur Spotify, YouTube, tout ça, ceux que les gens, ceux qui veulent l'écouter parmi vous. Tellement de belles chansons que je pense qu'il a été tapé avec un cellulaire, malgré tout, le son quand même assez bon. C'est sincèrement, c'est assez surprenant. Ça fait un peu de charme de cette chanson-là. On voit un peu un peut-être un côté différent vers où Bob s'en allait, peut-être un peu plus émotif, un peu moins rock and roll dans ses chansons, plus tranquille un peu qu'on connaissait Bob. Je pense que ça donnait un peu une idée vers où que la ligne vers où que Bob voulait s'en aller. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné avec ta fille? Est-ce que c'était l'idée de Bob? Est-ce que c'est toi qui l'as proposé, elle?
Non, Bob en fait m'a fait un... Ben, il l'a fait à d'autres personnes aussi, à d'autres de ses amis proches, mais il faisait rien à moitié. Mais tu sais, à mon mariage, 8-9 mois avant l'accident, j'étais pas au courant, mais à mon mariage, Bob a joué en tuxedo du violon avec mes filles qui chantaient plusieurs chansons durant le mariage à l'église. À Notre-Dame-des-Victoires, juste l'église qui est en bas dans le Vieux-Québec, tout ça, puis c'est magnifique, on a des photos de ça qui sont absolument incroyables. Mais il venait chercher mes enfants, Janelle puis Aliane, il venait les chercher sans que je le sache, probablement les semaines avant, 3, 4, 5 semaines avant, pour préparer ces tunes-là pour pratiquer ensemble. Bob n'avait pas touché au violon depuis l'âge de 12 ans, je pense. Puis, tu sais, c'est spécial, pareil, que le gars, pour ton mariage, décide... Puis là, il est occupé, le Bob, là. Vous comprenez qu'il fait des spectacles. Il joue au hockey, il est impliqué dans des projets, la broche à foin, tout ça. Puis là, tu pleures parce que tu es à ton mariage, puis tu le regardes, qu'il joue avec tes enfants. Puis là, dans ta tête, ça fait « Mais quand est-ce qu'il a pratiqué ça? » Donc, c'est très, 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 très touchant.
Ah oui.
Et suite à au fait qu'il ait chanté avec les enfants, puis tout ça, je pense qu'il a réalisé que ma fille était capable de jouer de la musique aussi, tout ça. Fait que... est arrivé l'été 2016 où ce que il écrivait une toune puis il disait je la chanterai en duo, puis là il m'avait dit est-ce que tu trouves qu'Aliane est trop jeune pour faire ça, elle avait 12 ans à ce moment-là.
Ah mon dieu, je pensais pas que sa voix était je pensais qu'elle avait plus 15 ans dans ces coins-là.
Ben, elle avait 12 ans puis tu sais elle chantait dans des événements puis des choses comme ça, elle jouait de la musique puis tout ça, fait que les deux se textaient. Puis à un moment donné, je me souviens, Bob, il l'appelait la petite, il dit la petite, elle viendrait-tu aujourd'hui au stade? Parce que Bob jouait ce soir-là sur la terrasse. Donc, au lieu d'arriver à 4-5 heures, il est arrivé à 2 heures de l'après-midi, puis il est allé pratiquer la chanson avec elle seule, toutes les deux, sur la terrasse, dans le fond. Et autour de 4h30, il est venu voir puis il dit oh là, la toune, et on s'attend-tu de l'entendre? Ben, maison, tu sais, on veut l'écouter. Et là, on s'est regroupé autour d'eux. Et ils l'ont fait une fois.
Une seule fois.
C'est ça. La seule fois. Puis Bobby a pris le temps de filmer tout ça. Et c'est le seul take qu'on a de ça.
Ah, il y a une chance.
Ce que vous entendez, c'est frais de deux personnes qui pratiquent pendant 1h30, 2 heures de temps, une toune, et que Bob prend sa guitare avec elle à côté, et c'est spécial pareil. Quand tu regardes la toune, là, elle a pas été remasterisée tant que ça, tout ça. Il l'a pris, je pense que c'est Bruno qui a travaillé à la toune, il l'a pris comme ça, il l'a ajusté un peu pour qu'on entende le son, tout ça, mais c'est fait sur une shot, frais comme ça se peut pas parce qu'il vient de travailler sur la toune, puis il vient d'être juste toutes les deux. Puis il aurait pu au milieu de la chanson. Oh, attends une seconde, on recommence parce qu'on s'est accroché là. Puis non, en fait, cette fois-là, Ça a été filmé, c'est la seule fois qu'on l'a.
Hey, donc, ça rend encore la chanson plus belle qu'elle est. Puis félicitations à ta fille en passant, parce qu'elle a vraiment un petit grain de voix qui fait comme la blonde du joueur de hockey junior là, qui ne veut pas voir son chum partir, là, puis qui est un peu en maudit après des bouts. Là, ça ressemble un peu à ça. Là, alors, vraiment une très, très belle chanson émouvante. Puis,
Et c'est spécial pour elle parce qu'elle ne l'a jamais rechanté non plus. Donc, elle ne l'a jamais refaite. C'était one take cette fois-là. Ouais.
Des beaux souvenirs, puis wow. Non, en même temps, c'est ça un peu ce que Marie-Pierre disait aussi. C'est juste plate qu'ils n'ont pas réussi à extraire de quoi de son cellulaire parce qu'il avait marmonné plein de tunes supposément sur son téléphone dans son bloc-notes, si on veut. Puis elle dit on avait toutes les paroles qu'il avait écrites, on avait toutes les petits riffs de guitare et c'est là, mais la plupart du temps, c'était tout des. Elle dit on ne peut pas sortir ce qu'il avait dans sa tête, mais lui, il se comprenait. Ben, tant mieux pour moi. Mais aujourd'hui, on peut rien faire avec ça. C'est un peu ça qui est de valeur, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais. Au moins, on a cette belle chanson-là qui est sa dernière vraie chanson, puis quelle belle chanson ce fut. Parenthèse pour terminer sur Bob, excusez. Il a mentionné sur sa page Facebook, l'équipe de Bob a mentionné qu'il va avoir un gros projet qui va sortir au mois de septembre. On ne sait pas c'est quoi. Ça va s'appeler le Temple de la Renommée avec une photo exceptionnelle d'un shooting qui avait eu lieu quelques mois avant son décès. Ça me titille au plus haut point. J'ai très hâte d'en apprendre davantage. Je ne sais pas ça va être quoi comme tout le monde. Un album, une version peut-être enregistrée de son spectacle. Je pense que c'était pas à l'Impérial, au Palais Montcalm qu'il avait fait avec des violons. On ne sait pas, j'ai comme un feeling que ça va être ça, mais sinon, peu importe si c'est une nouveauté de Bob, on va être bien heureux de l'apprendre.
All right. Ouais.
Yes. En terminant rapidement, je veux qu'on parle de B45. Peux-tu nous raconter ce qui a fait que tu as décidé de créer B45 autour d'un souper, d'un dîner d'affaires, je pense, avec des gens de l'industrie forestière qui t'ont parlé du Yellow Bird, du Bouleau jaune, excusez. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, hey, moi, je crois en ça, je vais m'acheter un touret puis je vais partir là-dedans?
Ben moi, je suis coach des lanceurs à l'époque des Capitales en 2002 et Richard Coutier, qui est un ami plus habile au niveau de l'informatique puis des ordinateurs, tout ça, maniaque de baseball, m'aide à accumuler des statistiques pour les joueurs. Et à un moment donné, il me raconte que il y a un ami, Bruno Deldegan, qui a une compagnie d'ingénierie forestière, que il racontait que le bouleau jaune avait des propriétés assez incroyables, que c'était l'arbre emblématique du Québec. Et qu'il était sous-utilisé au Québec. Donc, j'ose de tout ça, pose des questions. Je suis assez curieux dans ces choses-là. Puis qu'est-ce qu'ils font de l'arbre qui déroule? Parce qu'on fait on fait des planches, puis tout ça avec, puis on déroule jusqu'au cœur, puis il y en a quand même de disponibles. Et on nous raconte aussi que c'est un arbre qui arrive à maturité autour de 60, 80 ans, qui arrive à maturité au Québec dans les prochaines années, puis il va en avoir de disponibles, puis tout ça. Donc, serais-tu intéressé d'essayer de faire un bat de baseball avec ça? Pourquoi pas? Puis il me remet 2-3 billes de bois, des genres de poteaux de clôture, en bouleau jaune, en merisier. Et il passe toute l'année dans le bureau, puis on les utilise pas. Et à la fin de l'année, un ami ébéniste le transforme en bâton de baseball. Et finalement, avec Eddie Lantigua, on s'en va les essayer dans des cages ici à Québec. Puis le bâton casse pas. En tout cas, il y en a deux qui cassent pas, puis il y en a un qui casse facilement. Et on remarque par la fibre que les deux qui ont cassé, ils ont une fibre différente des qualités différentes de celui qui casse pas. Donc, j'en redemande une quinzaine de billes que j'ai quelques semaines ou un mois plus tard et va dans un tourneur dans le coin de Victoriaville qui accepte de me tourner ces bâtons-là. Fait qu'un mois plus tard, il m'appelle et il dit « Écoute, j'ai tourné tes bâtons, tu veux-tu les voir? » Et je me souviens encore, on est au printemps, probablement 2002-2003, et je suis tout excité de voir les 15 bâtons. Puis je dis, mais ils sont donc bien beaux, puis tu as fait ça à partir des poteaux qu'on avait les... Ben oui, puis tu penses-tu que ça va être solide? Écoute, il me dit, je le sais pas. Le gars, il y a du monde qui dit que le boulot, le merisier, ça va casser tout de suite. C'est pas comme le frein, c'est pas comme l'érable, c'est fait différent, mais moi, je pense que ça va tenir. Puis je me souviens encore, j'avais mis des balles dans mon char, fait que on s'en va dans la neige dans une cour d'école juste à côté. Puis lui, ben, c'est pas un lanceur de baseball. Puis là, il me lance. Puis moi, j'essaie de frapper. Les balles, on vole d'un banc de neige. Puis là, je capote sur le feeling, puis tout ça. Fait que finalement, parmi les 15, on a essayé de découvrir des caractéristiques communes qui faisaient qu'un bâton était plus solide que l'autre. Et sur les 15, il y en a eu 7-8 qui étaient très, très solides. Olivier Lépine qui venait de quitter les Marlins de la Floride comme catcher. Il a été engagé pour m'aider à fabriquer des bâtons. Puis ensemble, on cherchait un nom de compagnie. Puis là, ben, on fabriquait des bâtons de baseball, de boulot jaune pour frapper des balles. Fait que ça fait beaucoup de B. Fait que tout ce qu'on faisait commençait par B pour frapper des bombes. Puis en anglais, Yellow Birch Bat, puis Hitting Bombs. Fait que là, c'était tout le temps B. Et 45, c'est parce que c'est une essence de bois qui pousse en général sur le 45e parallèle. Fait qu'on va appeler ça B45, puis pour le faire. Puis je me souviens, on a fait son père avait fait un logo un peu, mais on avait fait un logo sur une napkin au Subway. Puis on a dit, ben ça va être ça le nouveau logo. Puis un jour, mis qu'on ait des sous, ben on le changera, puis on se prendra un graphiste qui va faire un vrai logo. Fait que ce premier logo-là a duré longtemps, mais le nom de la compagnie a toujours duré. Et finalement, ben ce qui est intéressant dans ça, c'est que premièrement, on a une essence de bois qui est l'emblème national du Québec, qui, quelques années plus tard, se retrouve dans le baseball majeur. Je pense qu'il y a plus de 60 joueurs dans le baseball majeur qui utilisent présentement des bâtons B45.
Ah,
et il y a plein d'autres
bon
compagnies.
Nom,
oui, il y a plein d'autres compagnies maintenant aux États-Unis, un peu partout dans le monde, qui utilisent le bouleau jaune, le bois d'ici au Québec, pour fabriquer des bâtons. Je sais qu'il y a quelques années, je pense qu'on était rendu à 5 ou 6 % des bâtons du baseball majeur qui étaient en bouleau jaune. Puis c'est de plus en plus grandissant, tout ça. Fait que c'est wow.
C'est la fierté.
C'est cool. Ouais. Fait que wow. Ça a été une expérience de vie pour moi extraordinaire parce que ça a été mon université à moi. La compagnie B45, en développement, là, ça a été de s'occuper de l'approvisionnement, de la transformation, de la fabrication. De la finition des bâtons, de la vente, de la mise en marché. Donc, c'est très rare qu'une compagnie, depuis quelques années, maîtrise, on ne les a jamais maîtrisés, mais qui passe quand même toutes les étapes. Quelqu'un aujourd'hui est un distributeur, l'autre est un fabricant, l'autre est ça, mais de faire tout de A à Z, d'aller prendre l'arbre dans le bois, de le transformer, de l'amener jusque dans les mains d'un joueur du baseball majeur ou amateur, peu importe. C'est quand même toute une expérience. Puis les gens autour de moi ont été tellement extraordinaires. Je me suis allé dans des séries dans le coin de Victoriaville, avec des ébénistes, puis de montrer c'est comment qu'on le sable, comment aiguiser les couteaux pour les tours à bois, quelle peinture utiliser, quel genre de gravure utiliser. Les gens ont été d'une disponibilité absolument incroyable et cette histoire-là a été magnifique. Donc moi, j'ai été à la tête de cette entreprise-là avec d'autres personnes aussi, probablement jusqu'en 2015. Et là, je suis plus avec eux, mais j'ai pas de regrets. Ça a été comme une aventure superbe. Ça a été vraiment le fun. Ça a été mon école à moi. Puis ça m'a fait apprendre beaucoup, beaucoup, mais directement sur le terrain. Tu peux pas être plus impliqué que ça. C'est directement sur le terrain. Mais de faire les capitales, de prendre la présidence des capitales, puis de gérer une entreprise comme ça en même temps. Je pense pas que ça se fasse. Si tu veux être vraiment présent dans l'entreprise comme gestionnaire, je pense qu'il faut être surtout dans un démarrage comme ça, il faut être présent tous les jours. C'est ce que j'étais plus capable de faire, puis d'assumer. Donc, j'ai fait le choix de laisser aller ce côté-là.
Ben écoute, c'est encore dans les intérêts du Québec parce que c'est Éric Gagné et son groupe aujourd'hui, Canado-Américain, si on veut, qui possède B45, qui font un bon boulot. J'ai reçu Kevin Young également de B45, représentant au niveau de la MLB, puis un bon Jack qui m'a raconté un peu l'histoire de B45, puis... un peu me vanter la qualité du produit. Je l'admets, c'est tellement un bon produit que c'est le seul bâton que je me suis fait voler dans ma vie. Les gens le volent tellement qu'il est bon. Fait que non, vraiment, félicitations pour cette idée de génie-là. Des gars comme Keitel Marte aujourd'hui, Escobar ou plein d'autres qui ont du baseball majeur. Jonathan Lucroy aussi dans le passé qui utilisait ces bâtons-là. Vraiment, ça commence à faire sa renommée à travers l'Amérique du Nord, puis c'est tout à ton honneur. En terminant, parle-nous un peu de ce qui est arrivé avec Cuba. Qu'est-ce qui a fait que l'histoire, que la lettre en fait que tu as envoyée au président, ou je ne sais plus trop, aux gens du gouvernement cubain pour avoir la chance de les rencontrer, pour parler de ton projet que tu voulais avoir en collaboration avec les Cubains?
Le projet initial, c'était que, encore une fois, tu regardes dans le passé, puis moi, ma théorie, là, c'est que écoute, j'avais des cours d'anglais au secondaire. J'étais poche, j'ai jamais été capable d'apprendre vraiment l'anglais, puis tout ça, puis j'en reviens pas comment à travers le sport, c'est plus facile d'apprendre une langue. Parce qu'il y a un geste qui vient suivre ce que tu es en train d'apprendre. Donc, quand tu dis give me the ball, que tu lances la balle en même temps, il y a un lien entre le geste que tu poses, puis ce que tu entends. Et, Et tu sais, on rit souvent des athlètes parce qu'on dit « Ah, ils sont pas bons dans ci, pas bons dans ça », puis on se moque un peu de nous, des gens, tout ça. Mais il y a une chose, c'est que la plupart des athlètes sont tous bilingues. Puis si vous parlez aux athlètes, plusieurs avaient de la difficulté parfois avec certaines matières à l'école, mais en langue, à travers le sport, c'est facile d'apprendre, c'est plus facile d'apprendre une matière. Et mon principe, c'était de justifier ça auprès des instances gouvernementales, auprès de l'enseignement, tout ça, de pourquoi que quand je donne des cours de baseball ici, je le ferais pas en anglais ou en espagnol, puisqu'on a des joueurs espagnols, tout ça, puis pour moi, c'était une façon d'apprendre. Pourquoi qu'il y aurait pas des cours parascolaires de baseball ou de basketball, n'importe quoi, dans une autre langue, puis de jumeler l'apprentissage d'une langue et l'apprentissage d'un sport. Et j'avais l'idée de dire, ça serait formidable d'amener des jeunes à Cuba, ça aurait pu être au Mexique, ça aurait pu être en République dominicaine, mais de dire, on fait un voyage avec 15 jeunes, 30 parents, on s'en va dans un resort, les parents, les 30 parents, ils s'amusent dans le resort, mais moi, tous les matins de 8h à midi, je kidnappe les jeunes avec des coachs. On s'en va faire du baseball sur un terrain en espagnol avec les Cubains et apprendre à dealer sur des terrains qui sont pas parfaits avec des coachs qui parlent seulement espagnol. Donc oui, je les accompagnais, puis Mark Griffin est venu avec moi, puis tout ça, mais c'était coaché par des gens en espagnol, des Cubains qui allaient coacher. Fait que pour moi, c'était de créer tout ce lien-là. Fait que c'est ce qui est arrivé. J'ai écrit une lettre là-bas, puis je me souviens d'Anne Rochette qui avait déjà des liens, parce que chez les Bâtons des 45, avait des liens à Cuba, tout ça. Donc, ça a été d'aller là-bas, puis d'aller expliquer ce que je souhaitais faire avec Cuba. Puis je disais, vous êtes en compétition de touristique avec le Mexique, la République dominicaine, de tous les pays qui tentent de tirer. Puis j'ai dit, le tourisme sportif est probablement l'avenir, puis c'est un marché que vous sous-exploitez, vous avez du baseball, vous avez du soleil, vous avez du terrain, puis vous avez la langue. Pourquoi pas unir tout ça puis créer quelque chose de le fun chez vous? Je vais te dire, là, les premiers 15 minutes, là, je me rends à La Havane et je suis avec Ozu Pelé, qui est traducteur. Les premières minutes sont complètement mélangées de ce que je veux avancer, puis tout le kit. Puis finalement, ils ont commencé à comprendre le concept. Et on s'est présenté quelques mois plus tard avec une soixantaine de personnes pour faire du baseball pendant une semaine. Ça a été une expérience complètement hallucinante. Ce que les jeunes ont vécu de 4-5 heures. En fait, on avait des cours d'espagnol baseball 2 mois avant d'aller là-bas. Donc, les jeunes, on avait Oswee qui enseignait l'espagnol à travers le baseball. Et à travers tout ça, les relations se sont développées. Et là, Yunieski Gourriel est venu jouer avec les Capitales, le frère des deux autres Gourriel, qui était une famille extraordinaire. Puis c'est spécial parce que quand j'allais à La Havane pour faire des rencontres avec Don Rochette, c'est chez eux que j'habitais. Donc, moi, j'ai connu les Gourriel avant qu'ils jouent pour les Blue Jays de Toronto.
Le jeune Lourdes, tu le connaissais déjà, là.
Ouais. Mais il avait 17-18 ans à ce moment-là, mais il allait devenir un grand joueur. Mais les Gourriel à Cuba sont très, très, très connus. Donc, c'est chez eux qu'on habitait quand on allait là. Et après ça, est venue l'idée de dire pourquoi pas avoir un joueur cubain qui jouerait pour les Capitales, pourquoi pas en avoir 3.
Mais vous aviez le droit, on connaît, c'est compliqué pour les Cubains de jouer aux États-Unis, mais avec les Capitales, ça allait bien là-dessus ou?
En fait, tout le monde disait que c'était impossible. Puis ce que j'arrivais pas à comprendre, je disais, OK, mais l'embargo, c'est sur une entreprise américaine, on est en entreprise canadienne. Oui, mais disait, tu ne pourras pas aller jouer aux États-Unis avec des joueurs cubains. Les autorités cubaines, le ministre des Relations internationales, il me disait, je vois pas comment tu vas pouvoir faire ça. J'ai dit, oui, si l'employeur est canadien, qu'est-ce qui empêche d'aller jouer aux deux? Fait qu'ils l'ont fait en disant, ça marchera pas. Puis quand on a traversé la première fois pour aller à Chicago, pour aller jouer, je me suis dit d'appeler les autorités le soir, puis de dire, mais ils jouent ce soir. J'ai dit, oui, ils jouent. Puis ils ont dit, oui, ça s'est pas fait depuis 1958 ou 59, quelque chose comme ça.
Avais-tu une idée à quel point c'était historique ce que tu avais réussi à faire? Est-ce que tu le savais à ce moment-là? Là?
Oui, je le comprenais, mais dans ma tête un petit peu naïve à moi, c'était « mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? » Puis là, les gros articles aux États-Unis ont sorti suite à ça, puis qu'est-ce qui se passe? Puis les gens me disaient « mais t'as pas peur qu'il arrive quelque chose, puis que le peuple cubain. Puis si jamais le joueur s'évade, mais pourquoi il s'évaderait? Il est avec nous, son intention, c'est pas ça. Puis je pense que les gens ont une mauvaise perception.
Il y en a eu qui l'ont fait, des Chapman, peut-être des José Fernandez aussi, que ça avait. On avait entendu l'histoire qu'il était évadé en bateau avec sa famille, puis tout. C'est peut-être pour
Mais c'est pas vrai que les Cubains les retiennent nécessairement. C'est pas ça qui se passe. C'est que le joueur, il doit se débarrasser de sa citoyenneté afin de pouvoir jouer aux États-Unis. Mm. Il peut pas être citoyen. Dans ce cas-ci, ce qu'on offrait au joueur, c'est tu viens jouer avec nous autres, puis quand l'année se termine, ben, tu retournes chez vous. C'est la première fois que ça se faisait. Donc, un joueur venait jouer aux États-Unis, puis à la fin de la saison, il retournait chez eux. Fait que ça a été vraiment quelque chose de gros quand je suis retourné à la Havane à la fin de la saison, puis il y avait un match de la Havane contre une autre équipe de Cuba dans la série nationale, et que j'ai fait le lancer officiel avant le match, et que là, dans les entrevues, j'ai bien vu la réaction des gens qui disaient « c'est un gain pour notre pays, comme ça se peut pas, ça pourrait amener vers la fin de l'embargo, tout ça. »
Les gens souhaitent ça, là, dans ce pays-là.
Oui, les gens souhaitent carrément ça. Oui, absolument. Fait que finalement, c'est pas arrivé, mais on pensait que sous Obama, ça allait se faire autour de...
Ça a passé
de
proche.
Oui, ça a passé très proche en 2015.
Ça a reculé avec Trump. Ouais. Ah, c'est triste.
C'est très politique, c'est très complexe, mais tout s'est bien passé dans tout ça. Il y a des gens qui pensent que j'aurais dû être plus sur mes gardes que ça, mais j'ai jamais été menacé de quoi que ce soit dans cette histoire.
Oui, ben c'est vrai, tu t'impliquais beaucoup, puis ça aurait pu être mal perçu par certains peut-être qui souhaitent pas la fin de l'embargo dans ce pays-là aussi. Là. Il y aurait pu en avoir certains, puis parce que c'est tout à ton honneur, en plus que la famille Gourriel qu'on connaît aujourd'hui avec Yuli puis Lourdes, qui sont vraiment des vedette dans le baseball majeur maintenant, qui surtout pour le plus jeune, qui va, d'après moi, être une vraie de vraie superstar. Là, il y a tout ce qu'il faut pour. En terminant, je vais te parler du début de la saison, en fait, pour la Ligue Frontier qui s'en vient, qui est l'ancienne Ligue CADAM, pour ceux qui nous suivent un peu, qui sont pas au courant des derniers développements, parce que tout ça est arrivé avant le début de la pandémie. Il n'y a pas eu de saison l'an dernier. Là, il y a le début de la saison cette année qui approche. Et on a appris malheureusement le retrait des Aigles. Et puis, par la suite, une fusion avec les Capitales qui devenait l'équipe Québec qui allait représenter le Québec carrément au sein de la Ligue, mais qui vont jouer ailleurs que malheureusement au Stade Canac pour le début. Ça se peut que ça revienne peut-être plus tard, de ce que j'ai compris. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de ne pas mettre une croix sur cette saison-là puis d'y aller de l'avant avec le projet?
Ouais, ben, en fait, il n'était pas question de ne pas faire les efforts nécessaires pour s'assurer d'avoir une saison. Le dernier match qu'il y a eu au stade ici, c'est quoi, le 26 août 2019? Ça va faire bientôt 2 ans. Et c'est tout ça. C'est les gens qui souhaitent voir ça. C'est l'espoir. On peut pas. Moi, je pense qu'on peut pas faire l'erreur d'annuler tout trop tôt. Je pense que les gens ont besoin de voir que les organisateurs de tel événement font tous les efforts nécessaires pour que ça fonctionne. Puis si ça marche pas puis qu'ils reviennent pas, ben au moins on aura tout fait. Évidemment que on avait besoin d'aide financière dans tout ça pour y arriver. Ça va être des pertes pour nous, mais je pense que ça vaut la peine de tenter de faire une saison. Dans le plan qu'on a dans le calendrier, c'est qu'on joue le match jusqu'au 22 juillet aux États-Unis, puis on fait un retour ici le 23 juillet, puis après ça, on s'échange les matchs. Est-ce que la douane va être ouverte le 23 juillet? Il y a des jours qu'on se lève et qu'on pense que oui. 3 heures plus tard, il y a une annonce de Vézu Legault, puis on pense que ça n'arrivera pas. Mais là, on ne sait pas. Je pense qu'on est 50-50 dans tout ça. Mais ça valait la peine. Puis les joueurs se retrouvent où? Mon staff va où après ça si on arrête de travailler pendant 2 ans? Donc, c'est tout de recommencer à zéro. Je pense qu'on mettait vraiment l'organisation carrément en danger, puisqu'on ne verrait plus du... La dernière fois que le baseball professionnel est parti en 1977-78 dans ces années-là, ça a pris 22 ans avant qu'ils reviennent. Les Expos de Montréal ont quitté en 2004. On en est à la 17e saison qu'on n'a pas de baseball professionnel à Montréal. Les Nordiques sont partis... en 95, ben, c'est rendu 26 ans qu'il n'y a pas d'hockey professionnel. Fait que, je pense que quand une équipe part, c'est dur de la retrouver. C'est dur de recréer ce momentum-là. Puis nous autres, ben, je pense qu'on a fait tout ce qui était nécessaire pour s'assurer qu'il revienne. Maintenant, pourquoi l'appeler Équipe Québec, pas juste les Capitales? Pour être juste dans tout ça avec les Aigles. Il y avait de la place pour une équipe ou 3 équipes. Étant donné qu'on pouvait pas le faire à 3, quand il est venu le temps de le faire à une équipe. Oui, les Capitales à cause du côté historique, puis par ancienneté, aurait pu être l'équipe qui est choisie, mais on pense que c'était plus juste de...
Bonne idée.
D'unir les équipes et d'appeler ça Équipe Québec. Ça crée un petit sentiment d'identité qui est vraiment trippant, puis tout ça. un petit coup de la province, puis les Américains sont contents de le voir comme ça. Mm. Vous voyez qu'on n'a pas appelé ça Team Québec, on a appelé ça Équipe Québec avec l'accent. Ça fait un peu tout le monde là-dedans. Ouais, c'est le fun.
Ouais, okay. Ça ressemble au podcast en plus. Dans les couleurs du logo, on pourrait quasiment le mettre comme publicité dessus. Je dis ça de même, mais en tout cas, non, pour vrai, c'est vraiment très beau comme concept. J'adore. J'ai reçu des questions du public par rapport à ça, dont Johan Labbé, un de mes fidèles auditeurs et amis personnels que je salue, un fan fini des Capitales des Aigles de toute la Ligue anciennement CANAM, me demande, une fois la pandémie terminée, après Québec, Trois-Rivières, Ottawa, est-ce que tu vois une autre équipe du Québec ou du Canada joindre la Ligue comme une expansion? Exemple, la région montréalaise, on le sait qu'on a déjà entendu parler de ça dans le passé, avec la venue, en fait, des futurs expos, qu'on ne sait pas trop, Rays ou whatever. Est-ce que, d'après toi, il y a de la place dans ce marché-là ou ailleurs au Canada?
Complètement à Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud. Puis, qui a le projet des expos ou non, ça ne change rien. On parle d'un projet amateur, communautaire versus un projet du baseball majeur. Puis juste pour les sceptiques, pour qu'ils comprennent, là, les équipes du baseball mineur qui ont le plus de succès, c'est celles qui sont le plus près d'une équipe du baseball majeur. Simple raison, vous regardez ce qui se passe avec Saint-Paul aux États-Unis, Kansas City, la région de New York, Boston, qui a des équipes comme Pawtucket et tout ça qui fonctionnait. Écoute, tu peux pas te permettre le biais du baseball majeur 3-4 fois semaine, c'est impossible. Il y a des fois le trafic. Faites juste imaginer les expos un mardi soir dans le centre-ville de Montréal. C'est pas vrai que le résident de Laval,
Saint-Jérôme pour
de
moi,
Mirabel, de Saint-Jérôme, ou aller un peu plus loin sur la rive sud.
Ça fait loin,
qui va se taper un mardi soir le trafic pour s'en aller à un match de baseball au centre-ville. Oui, des fois, il va le faire occasionnellement. Mais c'est très possible aussi que le petit gars, la petite fille, en allant les chercher à l'école de 8 ans, 10 ans, disait « Hey, papa, pourquoi on va pas voir du baseball ce soir? » Puis qu'ils disent « Ben, pourquoi pas? » Puis qu'au lieu de virer à gauche à 300$, ben, qu'ils virent à droite à 30$, pas de trafic, puis qu'ils disent « Bon, ben, on va aller voir du baseball ou ce que c'est un petit stade à 2-3 000 personnes, tout ça. » Une autre chose qui change carrément la donne, c'est ce qu'on a fait à Québec les dernières années. Ça veut dire qu'un stade de baseball, c'est plus un stade de baseball. C'est un stade qui sert au développement du programme sport-études, au baseball amateur, au softball, l'ultimate frisbee, le soccer. Présentement, avec l'hiver, on occupe le stade Canac maintenant à plus de 3500 heures par année. Donc, on est passé de 450 heures à 3500 heures. C'est 80 heures par semaine d'occupation ou à peu près là, qu'on a. Alors, évidemment qu'il y a des blocs, il n'y a rien du tout parce qu'on est en montage-démontage, comme en ce moment. Mais l'investissement pour une ville, c'est plus seulement de dire « Ah, c'est une équipe qui va rayonner un peu en Amérique du Nord », c'est plus ça le débat, c'est pour ses propres citoyens, pour la communauté. C'est un acquis qui est utilisé à tous les jours, du matin au soir, et qui sert énormément pour le développement, en plus de la visibilité que ça peut amener. Donc, je pense que c'est vu complètement autrement depuis un an ou deux de la part des politiciens. Même des fonctionnaires de ville qui viennent voir ce qu'on fait puis ils disent « Écoute, ça n'a pas de bon sens, comment c'est le fun, l'effet de monter, démonter un dôme, d'avoir tout ça pour une population. » Donc, pour revenir à la question de départ, est-ce qu'on va le voir dans les prochaines années à Montréal? Je vois pas qu'est-ce qui peut empêcher le projet de monter à Montréal. Je dois dire que dans la dernière année, ça avance. Maintenant, ça va être à quel endroit, je peux pas le dire, parce que je dirais qu'il y a deux endroits qui ont été sollicités par les gens dans la grande région de Montréal. Par des gens de niveau politique puis même des hommes d'affaires.
J'ai des noms en tête.
Donc, un intérêt de la part de quelqu'un qui veut redonner le suivant. C'est un geste qui est incroyable parce que c'est pas quelque chose qui peut être simplement fait dans le privé. C'est pas quelque chose qui peut être complètement fait dans le public, juste public. Mais c'est un mix des deux, comme on a réalisé à faire ici. Avec l'implication évidemment de Canac, l'implication de M. Tremblay au niveau des capitales, l'implication du programme sport-études, l'implication de l'OBNL qui a été formé CBV ici, puis tout le monde ensemble, on dit on fait quelque chose d'intéressant. Ben c'est comme ça qu'on va voir ça se passe dans l'endroit dans la grande région de Montréal.
La réélection peut-être de Denis Coderre, ben ça pourrait facilement aider. On sait son amour pour le baseball, on connaît aussi son implication dans le passé pour le projet de ramener les expos, mais un ne va pas sans l'autre nécessairement. Ça peut faire en sorte que les deux projets sont viables, comme tu dis. Puis moi, j'y crois parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amateurs, parce que c'est ma région, la région montréalaise. Puis beaucoup d'amateurs de baseball sont encore à Montréal. Mais comme tu dis, peut-être le prix d'étiquette d'un sport professionnel. Puis les seuls qui sont contre le projet, ben c'est surtout ceux qui ne veulent pas qu'on investisse 500 millions dans un stade et un sport de riche, comme certains l'appellent. Tandis que si c'est un stade peut-être plus petit, tu sais.
Oui, mais le projet proposé vient pas d'un ne doit pas nécessairement venir d'un amateur de baseball parce que ça n'a rien à voir vraiment avec le baseball. Oui, il va avoir 48 matchs du baseball indépendant de présenter, mais ces 48 matchs-là représentent même pas 10% de à quoi va servir ce stade-là puis ce dôme-là. Je veux dire, prenez une ville, là, que ce soit, comme je disais, Blainville, Saint-Eustache, puis on va aller dans le nord, là, puis on va aller à Saint-Jérôme, puis Mirabel, puis toutes ces villes-là, c'est que c'est un endroit pour des spectacles, c'est un endroit pour pratiquer plein de sports, autre que le baseball. Le baseball vient amener la visibilité nécessaire pour nommer l'endroit, parce que là, c'est un 3-4 000 que tu mets tous les soirs. Mais je veux dire, il peut y avoir plein de choses autres que le baseball. Ça vient juste complémenter chacun des événements puis de tout mettre ça ensemble.
Oui.
Et c'est comme ça pour ça s'est vu. Donc, oui, présentement, les gens qui nous approchent, c'est impressionnant comment c'est pas des gens de baseball. C'est des gens qui croient à ce projet communautaire-là pour une ville. Qu'est-ce que ça peut apporter? Et c'est comme ça, je pense, que tout le long, on va falloir que le projet soit vu. Évidemment que le projet du baseball majeur est un projet différent. Je pense qu'ils sont en train de l'amener un peu communautaire, puis je trouve ça le fun de le voir de cette façon-là. Mais ils demandent quand même un peu plus de partisanerie baseball pour en arriver là, même si au niveau du marketing, au niveau de la visibilité, c'est extraordinaire. Mais il y a un volet quand même plus puriste baseball dans cet autre projet-là.
Exact. Puis il y a vraiment de la place, je peux te dire, pour être à Saint-Jérôme, Mirabel, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui, ça grossit Mirabel, c'est plus ce que c'était dans les dernières années. La ville prend de l'ampleur, puis il n'y a pas tant d'endroits où on peut jouer au baseball. Il y a encore le vieux stade à Saint-Augustin. Il y a le vieux, je peux même pas l'appeler un stade, le parc Melançon à Saint-Jérôme, où il y a les Cardinaux. Mais c'est petit. Puis même moi, étant joueur de baseball, je pense qu'il y a 3 parcs dans toute la ville. Ça manque vraiment d'infrastructures pour des jeunes. Je pense à Tristan Baudin du Centre de perfectionnement de baseball des Laurentides. Qui c'est un jeune de 23-24 ans qui a bâti vraiment son centre pour développer la relève, les jeunes dans le baseball, pour justement qu'ils puissent jouer l'hiver parce qu'il n'y avait pas d'endroit où jouer. Il y a de la place, il y a de la demande, puis je suis convaincu que ça va être ultra utile si un jour le projet vient, bien sûr. Je serais très heureux de le voir.
On l'espère,
on se croise les doigts. Écoute, j'espère qu'on va pouvoir suivre les Capitales, l'équipe Québec, excuse-moi, je ne suis pas habitué, l'équipe Québec cette saison au niveau peut-être télévisuel. Est-ce que tu sais s'il y a des gens qui pourront continuer de suivre leur équipe favorite?
Oui, sur le stream. D'après moi, ça va être annoncé prochainement. Donc, chacun des matchs va être possible d'être vu sur Internet. Donc, on fait ça. Puis, en espérant que d'ici la fin juillet, on puisse revenir et discuter des derniers matchs de la saison à Québec. Oui, et à Trois-Rivières.
C'est certain qu'on va suivre ça. Puis ça va me faire un grand plaisir de pouvoir parler de vous dans le podcast pour mousser un petit peu plus l'engouement, ceux qui ne savent pas qu'il y a une saison actuellement, même si c'est à distance. Puis croisons-nous les doigts que ça revienne peut-être pour les séries au Québec, dans le stade Canac, avec quelques partisans, qui sait. Ça serait tellement plaisant de revoir de la balle bientôt. Puis on va espérer vivre un bel été au moins cette fois-ci.
On l'espère.
Yes. Hey, un gros, gros merci, Michel, de ton implication, de ta générosité du propos, de tout le temps que je t'ai pris, beaucoup plus que prévu. Puis sincèrement, j'en aurais pour une heure encore, mais je vais te laisser filer là-dessus parce que tu as été énormément généreux avec nous. Puis merci de t'être livré aussi transparent, comme tu l'as toujours été. Mais vraiment, tu m'as donné carte blanche, puis je t'en suis très, très reconnaissant.
Ça me fait plaisir, puis tu te gênes pas, puis bon succès à ton émission, puis je vais t'envoyer quelques photos.
Oui, écoute, envoie-moi tant que le nombre de photos que tu trouves, que ce soit des photos avec Bob, des photos de peut-être du mariage, whatever, tout ce que tu trouves que tu as qui fit avec le podcast du baseball des Capitales, n'importe quoi. Envoie-moi tout ça, on va mettre ça dans le montage, puis les gens vont en bénéficier davantage.
Parfait, merci.
Un gros merci, salut, Michel. Bien. Merci beaucoup à tous d'avoir été à l'écoute pour ce 42e épisode du Made in Québec podcast. podcast en compagnie de Michel Laplante pour cette semaine spéciale Baseball Bob Bissonnette. Et puis, prochain épisode, je vous le dis tout de suite en primeur, ça va être avec Frédéric Simard, le guitariste, célèbre guitariste en fait, de Bob Bissonnette, son bras droit. Donc, on va avoir des bonnes anecdotes sur Bob. Et puis, je termine en mettant une très bonne chanson. Et puis, je dédie cet épisode à Bob, à Derek Aucoin aussi, qu'on salue. Et puis, à toi, Michel, merci énormément pour toute cette belle implication encore une fois. Salut tout le monde!
Salut!
Là, OK, c'est toute ma vie. Je pense rien qu'à ça depuis que je suis petit. Mais là, j'ai du nouveau. J'étais un peu énervé. Me suis fait une petite blonde la semaine passée. Je l'ai rencontré dehors, tout près du centre Henri-Léonard.
J'ai enfin trouvé mon homme. Le capitaine du club est devenu mon chum. Le meilleur joueur de l'équipe après un match est venu me chanter la pomme. J'ai tout de suite su que c'était l'homme de ma vie. Après cette fameuse game contre les Mouskis,
j'ai trouvé ma perle rare.
Moi je sors avec le meilleur joueur du Nord,
le roi de la glace. J'adore la petite, la section 3. Une saison formidable.
Oh, un amour incroyable.
On rentre dans les finales.
Amène-moi dans la coupe Mémorial.
Je vais tout faire, mon petit bébé.
Moi, je le sais que tu vas gagner.
Et comme de fait, on est champion. Le roi de la glace, la reine de la place. Je suis de retour de Kelowna.
J'ai hâte de te sauter des bras.
Le roi de la glace, la section 3. C'est le moment tant attendu. Mon rêve depuis que je suis petit cul. Me suis fait repêcher par Chicago.
Il va devoir partir de Bécomo.
Une belle histoire, mais une triste histoire. Car c'est bien plus qu'un au revoir. Les deux amoureux, droit dans les yeux, doivent se dire adieu. Quitte la place. Une autre glace. À la base, j'attacherai mes patins. Je penserai à toi, ça c'est certain. Je quitte la glace.